Donc c'est notre dernière séance pour l'année. Toujours une double émotion. Donc aujourd'hui, je pensais vous parler de croissance et de politique macroéconomique. C'est encore un domaine qui est très en friche. Enfin, sont tous les domaines qu'on fait de la recherche, toujours tout a l'air en friche, mais c'est particulièrement un domaine qui est en pleine exploration et encore beaucoup à faire. Voilà. Donc je vais... En fait, donc, la question est de savoir un petit peu comment on peut stimuler la croissance avec la politique macroéconomique. Et quand je parle de politique macroéconomique, c'est surtout la politique monétaire et la politique budgétaire. D'accord ? Alors, c'est vrai que souvent, la politique monétaire et la politique budgétaire, c'est beaucoup fait, en tout cas la politique monétaire, c'est pour faire face au court terme, risque d'inflation ou récession, et c'est des politiques souvent qui sont menées pour le court terme. Et nous, nous sommes intéressés par la croissance de long terme. Donc la question, c'est un peu de réconcilier. Et longtemps, la théorie économique s'est intéressée à la croissance d'un côté et au cycle de l'autre, sans vraiment regarder le lien entre les deux. Par exemple, Samuelson, il avait ce qu'on appelle les oscillateurs de Samuelson, c'était totalement disjoint de la croissance. Et puis de l'autre côté, il y avait Solow, les modèles qu'on a vus et d'autres, et c'était disjoint. Voilà, on voyait, il y avait un peu le sentiment que la politique conjoncturelle et la croissance, c'est deux choses tout à fait séparées. Et c'est comme ça que d'ailleurs, quand j'ai étudié la macro, on ne reliait pas vraiment la politique macro et la croissance. Mais en fait, si vous voulez, il a commencé à y avoir des travaux disant mais non, les deux sont reliés. Et par exemple, on a voulu relier, par exemple, la volatilité. Vous voyez, on représente ici la volatilité, c'est-à-dire la variance du PIB, par exemple, hein, la volatilité d'un pays. Donc, on regarde son PIB et puis on regarde au cours du temps quelle est sa volatilité. Donc, je mets volatilité là. Et puis regardez la croissance, quoi, voilà, et le taux de croissance. Et alors qu'est-ce qui se passe ? Alors il y avait quelques premières études qui faisaient des régressions, notamment par Ramet et Ramet, voilà, des noms un peu comme ça. C'est mari et femme, hein, voilà. Et ils disaient plus ou moins, ben, on regarde différents pays, on met des points, et en gros, on a l'impression qu'il y a une relation décroissante, que plus les pays sont volatiles, moins ils croissent, et que c'est particulièrement vrai si c'est les pays moins développés, que pour les pays développés, il y a moins de relation entre la volatilité et la croissance. Voilà, c'était un peu c'est un tout début d'essayer d'établir une relation entre d'un côté la volatilité d'un pays, et la volatilité de son PIB et sa croissance. C'est très embryonnaire, hein. Donc ça c'était, mais ça ça date pas il y a très longtemps, c'était les années 90, hein. C'est un peu 25 ans, 30 ans, quoi. Et c'est les premières tentatives un peu de relier croissance et volatilité. Alors ensuite, moi j'avais fait des travaux, alors j'ai une série de travaux que j'ai fait notamment avec Banerjee, qui a eu le prix Nobel il y a, avec Duflo, et qui est le mari également d'Esther Duflo maintenant. Donc j'avais fait avec Banerjee et différentes personnes, et on avait regardé, on avait montré qu'en fait ça avait beaucoup à voir avec les contraintes de crédit, donc le rôle des contraintes de crédit. Parce que en fait, le raisonnement est le suivant, c'est que en fait, si vous voulez, quand vous avez, je vais lever ce tableau-là et baisser celui-là. Quand vous avez, en gros, si vous voulez, quand vous n'avez pas de contraintes de crédit, les entreprises peuvent emprunter jusqu'à la valeur nette présente de leur profit. Alors la valeur nette présente, c'est-à-dire c'est le profit de demain, c'est le profit d'aujourd'hui divisé par 1 plus le taux d'intérêt. Le profit d'après-demain, c'est le profit d'aujourd'hui divisé par 1 plus le taux d'intérêt au carré. Et on fait la somme, vous voyez. Donc, c'est-à-dire, s'il n'y a pas de contrainte de crédit, normalement, vous pouvez aller dans une banque et vous dites, écoutez, moi, voilà, j'ai une entreprise, elle va faire des profits demain, après-demain, etc. Voilà les profits que j'espère demain, après-demain et tout. On convertit tout ça en truc d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est comme ça qu'on actualise, comme on dit. Et on a la valeur nette présente de tous vos profits futurs, d'accord ? Et on vous dit normalement, ben, écoutez, tant que vous me demandez moins que ce que vous avez comme valeur nette présente, qui est reflétée notamment dans le prix de votre entreprise si vous voulez la vendre, ou le prix de vos actions, eh ben, je vous prête, d'accord ? Donc si je suis dans un monde sans contrainte de crédit, normalement, n'importe qui doit pouvoir emprunter jusqu'à concurrence de la valeur nette présente de ses profits futurs. D'accord ? Mais, et alors à ce moment-là, la volatilité, ça n'a pas d'importance. Donc, ce qui se passe aujourd'hui ou demain, c'est pas grave. Demain, t'as pas de chance. Aujourd'hui, t'as pas de chance. Demain, t'auras de la chance. Tu vois, quand tu peux emprunter jusqu'à la valeur nette présente des profits futurs, la volatilité n'a aucun effet sur, sur la capacité d'emprunt des entreprises et donc leur capacité d'investir dans la R&D, etc. Tu vois ? Donc, à ce moment-là, si tu es dans un monde sans contrainte de crédit, eh bien, que je devais dessiner le ramet dans des pays sans contrainte de crédit, eh bien, là, la volatilité, et là, j'aurais la croissance, eh bien, le taux de croissance, eh bien, normalement, ça devrait être plat, quoi. Parce que ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance, la volatilité, parce que vous pouvez toujours vous compenser la mauvaise chance d'aujourd'hui par la bonne chance demain, et la banque, elle regarde juste tout le futur, et donc elle se dit, ça n'a pas d'importance, la volatilité. Mais par contre, ça, c'est sans contrainte de crédit, d'accord ? Donc si vous êtes dans un monde sans contrainte de crédit, c'est comme ça que ça se passe. Mais si vous êtes dans un monde maintenant avec contrainte de crédit, typiquement, eh bien, vous n'allez pouvoir emprunter qu'un multiple de vos revenus courants. C'est ça qui se passe. On regarde ce que vous gagnez maintenant. On dit, moi, demain, c'est pas... Voilà. Donc, dans un monde avec crédit, marché de crédit imparfait, eh bien, typiquement, il y a ce qu'on appelle un multiplicateur de crédit. Je ne peux emprunter ou investir qu'un multiple de mes revenus courants. Et du coup, si j'ai des revenus courants très bas, ça va réduire ma capacité d'emprunt, voyez. Et là, si je fais de la R&D, vous savez que la R&D, c'est quelque chose que je dois soutenir dans le long terme. Si j'ai pas de chance aujourd'hui, il y a une grosse récession, ou moi mes revenus baissent, il y a le Covid, ou il y a un truc, et que tout d'un coup, eh bien, je dois interrompre ma recherche, ça peut compromettre à long terme mes perspectives d'innovation. Et donc, dans un monde avec contrainte de crédit, eh bien là, il y aura une relation très négative. Monde avec contrainte de crédit. Et alors là, si vous mettez volatilité et là, vous mettez taux de croissance, et bien alors là, effectivement, la prédiction, c'est que la relation devrait être très négative. Plus vous avez de volatilité, plus vous avez de l'incertitude sur la capacité de poursuivre des investissements d'innovation et donc moins il y aura de croissance dans l'économie. Voyez, et c'est ça qui peut expliquer ramet-ramet, parce que finalement, ramet-ramet, il ne vous disait pas pourquoi dans les pays développés, il n'y avait pas de relation entre la volatilité et le taux de croissance. Dans les pays moins développés, il y en avait. Ben, avec Banerjee, en fait, on a fait ça avec Banerjee, Angeletos et Manova. Donc, je vais leur mettre leur nom quand même. Angeletos, qui est prof au MIT. Banerjee, qui est entre Paris et Boston. Et Manova, qui est à maintenant University College London, qui était mon étudiante, voilà. Donc, et c'est avec eux qu'on a fait cet article-là. Donc, maintenant, à partir de ça, ça vous donne déjà des clés pour dire, voilà, dans un monde où il y a, des contraintes de crédit, eh bien, il peut y avoir un rôle pour le gouvernement pour garantir les investissements innovants des entreprises. Et donc, souvent, on parle de stabilisateurs automatiques. On dit souvent que c'est important d'avoir des stabilisateurs automatiques pour les consommateurs, c'est-à-dire d'avoir un monde où, quand il y a une grosse récession, l'État garantit quand même la consommation des ménages. Et nous, on a de très bons stabilisateurs automatiques en France, d'accord ? Mais il faut également des stabilisateurs automatiques pour les entreprises, pour qu'elles puissent maintenir leurs investissements innovants le long du cycle économique. Parce qu'elles ont, justement, pour compenser les contraintes de crédit auxquelles elles font face. Donc, on voit tout de suite un rôle du gouvernement qui est de permettre aux entreprises, par exemple, une des choses qui permet un stabilisateur automatique pour les entreprises, c'est ce qu'on appelle le Small Business Act. C'est quelque chose qui garantit pour les entreprises, les petites et moyennes entreprises, de maintenir leurs investissements le long du cycle économique. Et vous voyez, ça devient très important. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une politique ? Donc, typiquement, on va vouloir des politiques qu'on appelle contracycliques, c'est-à-dire où le gouvernement, lui, en récession, devient plus laxiste, quoi. Il va aider les entreprises, quoi. Il va faire peut-être du déficit pour pouvoir prêter aux entreprises. Si c'est une banque centrale, elle va baisser ses taux d'intérêt ou faire du quantity easing pour relâcher la pression sur les entreprises dans des moments où elles font face à des contraintes de crédit très fortes. Et c'est ça la logique des politiques contracycliques quand on les regarde d'un point de vue croissance. Donc, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder ? Ben, on va, voilà, donc ça, c'est un, une recherche qu'on a faite. On a présenté ça avec mon ami Enis Karoubi, parce qu'ensuite, on a regardé les implications de ça pour la politique budgétaire et pour la politique monétaire. Alors, pour la politique budgétaire, donc il y a plusieurs débats qui sont très intéressants, et ça va vous relier tout de suite à des débats de politique économique que vous entendez à la télévision, ou vous lisez dans les journaux, ça revient tout le temps, hein, les débats sont les mêmes. Hein. Le débat, c'est sur est-ce qu'il faudrait ou pas que les gouvernements interviennent avec un plan de relance, un stimulus package, comme disent les anglo-saxons, quand il y a une récession. Alors là, il y avait un peu deux écoles, et moi je me situe un peu au milieu, ça ne va pas vous surprendre. Il y avait d'un côté la vision qui était de dire, la vision très keynésienne, qui dit, eh bien, dès que ça ne va pas bien, il faut dépenser dans n'importe quoi, parce que ça relance la demande. Ça, c'est la vision keynésienne. Ce n'est pas faux. Je pense qu'il faut intégrer Keynes. Je pense que c'était très important, l'apport de Keynes. Et je pense que la demande et maintenir la demande, c'est important. Parce que si la demande s'effondre, les entreprises ne veulent même plus investir parce qu'elles n'ont pas de demande à servir. Donc, si vous voulez, là, il y a beaucoup de vérité. Mais c'était une application du keynésianisme en disant, voilà, moi, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je dépense dans tout parce que n'importe quelle dépense publique, je peux même faire des trous et reboucher les trous. Parce que si je fais des trous et je rebouche les trous, j'embauche des gens, je leur donne un salaire, ils vont le dépenser, et ça relance l'économie. D'accord ? Donc ça, c'est la vision keynésienne, d'accord ? De dire, quand il y a un... voilà. Et c'est une vision. L'autre vision, c'est de dire... Et d'ailleurs, c'était souvent la manière dont on faisait la politique en France, en Angleterre, c'était le stop and go. Dès que ça n'allait pas bien, qu'est-ce qu'on faisait ? Eh bien, on faisait de la dépense publique pour relancer. Et puis, on se disait, eh bien, évidemment, après, il faudra repayer. Et après, on va augmenter les impôts. Mais voilà, il y avait en gros un peu une manière de gérer de cette façon-là, quoi. Voilà. Et c'était vraiment de dire, je fais de la relance par la demande, essentiellement. D'accord ? Et puis, il y a la vision... Ça, c'était la vision keynésienne, disons, traditionnelle. D'accord ? Où il y a de la vérité, parce que les effets de demande comptent, évidemment. Donc, et puis, il y avait la vision très conservatrice qui dit, en fait, ce qu'il faut, et vous verrez, tout ça, c'est important, c'est dans les débats que vous écouterez, donc vous pourrez vous dire, tiens, ça me rappelle ça. La vision très conservatrice, c'est un peu la vision David Cameron, c'est de dire, en fait, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, au contraire, je dois réduire les dépenses publiques, pas les augmenter, je dois les réduire, de façon à pouvoir réduire beaucoup les impôts, et comme je vais réduire les impôts, ça va reconstituer les marges bénéficiaires des entreprises, et donc elles vont investir, et donc ça relance la machine. Vous voyez, donc, voyez, deux visions, l'une c'est je dépense dans n'importe quoi, et puis l'autre c'est je fais de l'austérité à fond la caisse, et je réduis mes impôts du coup, quoi. D'accord ? Et comme ça, je restitue les marges des entreprises par ce biais, et du coup, ça relance la machine. Ça, c'est deux visions très traditionnelles, d'accord ? Et nous, on n'a ni l'une ni l'autre. Nous, c'est de dire, en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire des politiques contracycliques. C'est pas je dépense tout le temps ou je dépense jamais, c'est que quand ça va pas, eh bien, je fais des dépenses publiques mais qui sont très ciblées sur les entreprises, notamment, pour leur permettre de maintenir leurs investissements innovants le long du cycle. Je peux le faire en faisant un peu plus de déficit, ou je peux le faire en baissant les taux d'intérêt, ou en faisant des quantity easing, c'est-à-dire des achats de bons, des achats d'actifs par la Banque centrale. D'accord ? Seulement, évidemment, l'idée de la politique contracyclique, c'est quand les choses vont mieux, là, je sers. Parce qu'il peut y avoir des effets non désirables. Et je vais en parler tout à l'heure, d'avoir de la politique laxiste, même en période d'expansion. Parce que notamment, ça peut favoriser le phénomène des firmes zombies. Ça peut permettre à des firmes qui ne sont pas profitables de demeurer. Et vous voyez, d'un coup, quand on arrive à ça, on va se rapprocher de la microéconomie. C'est-à-dire que peut-être il y a des firmes qui sont zombies, il y a peut-être des firmes qui ne le sont pas. Et on arrive petit à petit à nouveau vers la macroéconomie, avec hétérogénéité. On ne peut pas traiter tout le monde pareil, vous voyez. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de firmes zombies dans l'économie ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? C'est un peu le problème qui s'est posé avec ce qui s'est passé avec le Covid. Le gouvernement, je pense que personne ne dira que c'était une mauvaise chose de protéger les consommateurs et les entreprises. Alors, évidemment, beaucoup de gens se sont posés. Les faillites ont baissé de 30%. Entre 20 et 21, et évidemment, dans ces firmes, il y a des firmes zombies, bien sûr, où il y a des firmes qui, à un moment donné, il va falloir voir les firmes qui sont viables, les firmes qui ne le sont pas, etc. Il y a toujours donc d'accord, vous voyez, donc il y a l'idée, un, je suis keynésien, je dépense dans tout le temps, et c'est la demande, c'est la relance par la demande. L'autre, je réduis les dépenses au max. Je fais l'État régalien, c'est juste law and order, hein, et rien d'autre. Et je réduis les impôts et ça fait relancer. Et l'autre vision, c'est cette politique contracyclique où dans les mauvaises périodes, eh bien là, je lâche la bride, je fais du déficit ou je baisse les taux d'intérêt. Mais évidemment, dès que ça va mieux, je reprends les rênes, tu vois. D'accord. Et quand je dépense dans les périodes de récession, je regarde aussi beaucoup le côté offre, pas que le côté demande. Je regarde les entreprises. Je veux évidemment maintenir la demande, mais je veux également maintenir la capacité des entreprises de poursuivre leurs investissements, recherche, développement, innovation plus généralement. Vous voyez, donc ça, c'est un peu la façon un peu de mettre le débat. Enfin, en tout cas, une des manières de mettre le débat. D'accord. Alors, quand je vais parler de politique budgétaire, je montrerai qu'effectivement, il y a un rôle pour les politiques budgétaires contracycliques, en montrant qu'elles poussent, qu'elles aident à l'innovation et à la croissance, particulièrement dans les secteurs qui ont davantage sujet à contraintes de crédit, donc exactement conformément à ce que j'avais raconté là. D'accord ? Donc l'idée là, c'est que les objectifs de déficit public devraient évidemment corriger pour le cycle. Ça doit tenir compte du cycle. La deuxième chose, c'est qu'après, il y a un autre débat. C'est la politique monétaire. Est-ce que la politique monétaire doit s'adapter ou pas au cycle ? D'accord ? Alors, il y en a qui pensent qu'il faut se focaliser uniquement sur l'objectif de stabilité des prix. Vous voyez que la Banque centrale ne devrait se préoccuper que de stabilité des prix. Et puis, il y en a d'autres qui pensent que le rôle de la Banque centrale, c'est aussi un rôle de stimuler la croissance et l'emploi. Et ça, il y a eu un peu un débat là-dessus, d'accord ? Donc, il y a des gens qui sont un peu la vision Bundesbank, je dirais, hein, bien que ça évolue même à la Bundesbank, qui était stabilité des prix, point à la ligne, et puis une vision plus moderne, à mon avis, de dire non, la croissance et l'emploi doivent être autre, c'est également un objectif. Et là, on va montrer que des politiques monétaires contracycliques, également, eh bien, elles stimulent l'innovation et la croissance, d'autant plus que ce sont des secteurs qui ont ou des contraintes de crédit ou des contraintes de liquidité. Les contraintes de liquidité, c'est-à-dire, je n'ai pas forcément un problème de solvabilité, mais je dois payer beaucoup de salaires, par exemple. Donc, j'ai besoin d'avoir du liquide très vite, tu vois. Donc, c'est pas vraiment des contraintes de crédit, mais c'est des contraintes que moi, je deviens illiquide. Tu sais, on peut être non solvable ou non liquide. Hein, ou on peut avoir... Voilà. Et donc, si par exemple, je dois la part des salaires dans mes coûts ou la part des salaires par rapport à mes ventes représente quelque chose de très important, ben, je dois tout de suite avoir des liquidités pour payer mes employés. Et donc, ça restreint évidemment ce que je peux faire en termes d'investissement. Alors, il y a des débats très intéressants également sur la réglementation financière. Par exemple, quand il y a eu la crise de 2008, évidemment, il y a eu BAL 2, BAL 3, et c'était l'idée qu'il fallait qu'évidemment les banques aient un ratio plus important de capital dans leur bilan. D'accord ? Donc, il fallait que... Et notamment, il y a Admati et Helwig ont très bien écrit là-dessus. Et donc ça, je pense, nous, on est totalement pour BAL 2, BAL 3, hein, ce qu'on appelle les ratios de capital. Mais c'est vrai que ça peut réduire un peu, ça peut avoir des effets secondaires, qui est de réduire les effets de politique monétaire contracyclique, parce que les banques vont moins transmettre. Vous voyez, ça rend les banques moins réactives à la politique monétaire de la Banque centrale. Et donc, il faut peut-être faire plus encore de contracyclicalité pour avoir les mêmes effets que l'on aurait eu avant de mettre en place ces réglementations. Voilà, donc ça, c'est un débat intéressant. Et puis, alors, il y a un autre débat qui est très intéressant. C'est le débat, et on revient tout le temps, sur le lien entre les politiques monétaires et les réformes structurelles. Et ça, c'est un débat très important. Vous savez que j'ai parlé de concurrence, l'importance de la concurrence pour la croissance. Eh bien, c'est très important. Notamment, il y avait un discours, là, j'ai beaucoup parlé de ce monsieur aujourd'hui qui est Mario Draghi. Je vais même montrer sa photo tout à l'heure, deux fois, vous allez la voir. Hein. Et je suis un grand draghiste, moi. Mais alors, donc, c'est de savoir est-ce que les politiques monétaires ou budgétaires contracycliques sont pas d'autant plus efficaces que ça opère sur une économie plus concurrentielle, plus où on a fait des réformes structurelles. Quoi. Et je m'intéresse là à la concurrence, mais on pourrait regarder d'autres réformes structurelles. Et il y avait un discours important de Draghi quand il était président de la BCE à Jackson Hole, et où il disait « Moi, j'ai fait une partie du travail, moi, Draghi, avec le « whatever it takes », qui a sauvé l'Europe hein, au moment de la crise financière. Mais vous, les pays, vous devez faire votre partie du travail avec vos réformes structurelles. Et les deux sont complémentaires, en fait. On va voir que des pays qui font des réformes structurelles, ça augmente l'efficacité de politiques macroéconomiques plus contracycliques. Voyez, donc ça, c'est très important, l'idée que chacun doit faire un peu son travail. La Banque centrale, elle peut faire une partie, mais elle ne peut pas tout faire. Et il faut que les gouvernements fassent leur partie, notamment sur le plan structurel. Voilà. Donc ça, c'est une autre idée que je veux avancer ici. Alors, on regarde d'abord la politique fiscale. Et alors, dans la politique fiscale, on fait une espèce de régression, c'est-à-dire on dit, voilà, comment le taux de croissance. Alors, on regarde pays, industrie, panel, hein, enfin, on regarde, et on regarde comment la croissance dépend du degré de contracyclicalité de la politique fiscale. Alors, c'est quoi la politique budgétaire? C'est quoi la contracyclicalité? C'est jusqu'où le pays augmente son déficit en période de récession. C'est ça. On mesure, on regarde le passé des pays, on regarde jusqu'où les pays réagissent en faisant plus de déficit en récession et moins de déficit en expansion. Alors, par exemple, il y a des pays qui sont souvent très procycliques, c'est-à-dire que quand ça va bien, ils font plus de déficit. Nous avons eu un gros problème de procyclicalité. C'était au moment de l'élection de 2002, vous vous souvenez? C'était quoi déjà le... Oh là là, la cagnotte, la fameuse cagnotte, c'était un gros problème. On était typiquement dans une situation où on devait réduire les déficits. Et il y avait les élections, malheureusement, de 2002 et le débat de la cagnotte, et on n'a pas pu. Par exemple, il y a Alesina Tabellini, Alesina qui était mon collègue qui est décédé l'an dernier, et Guido Tabellini, qui ont fait un papier pour essayer d'expliquer pourquoi, en Italie, tu avais de la procyclicalité de la politique budgétaire. Et en fait, la raison est la suivante, c'est-à-dire que les gens ne font pas confiance dans le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas dire, là, je vais mettre de l'argent de côté pour les mauvais rien, parce qu'on croit que les personnes vont se mettre l'argent dans la poche, qui n'est pas totalement infondé. Hein. Il y a eu un passé italien qui peut encourager ce genre de méfiance. Hein. C'est le mélange de corruption et d'informations asymétriques qui fait que le gouvernement italien était obligé, dès que ça allait bien, de montrer que ça allait bien en donnant, quoi. Et donc là, ça l'obligeait à la procyclicalité. Au lieu de réduire les dépenses publiques quand ça allait bien, et de réduire les déficits, il était obligé de les augmenter. Et donc ça, c'est évidemment exactement le contraire de ce que vous voulez. D'accord. Donc voilà. Donc on regarde comment la croissance, de la productivité dépend, eh bien, de la combinaison entre... Et l'idée, c'est que plus vous êtes, il y a des contraintes de crédit dans un secteur, plus sa croissance profite d'une politique plus contracyclique. D'accord ? Donc, on regarde la croissance dans un secteur, dans un pays, en fonction du degré dans le pays de contracyclicalité de la politique fiscale, interagit avec le degré de contrainte de crédit du secteur. Alors, pour que ça ne soit pas endogène, on dit, voilà, on prend l'équivalent de ce secteur. Nous, on regarde des pays européens, mais on regarde l'équivalent de ces secteurs aux États-Unis, et on sait que ces secteurs sont plutôt enclins à avoir des contraintes de crédit. C'est-à-dire parce que, par exemple, ils doivent se reposer beaucoup sur des financements externes ou parce qu'il y a très peu de tangibilité des actifs. Vous savez, quand vous avez beaucoup de machines ou de choses très tangibles, c'est très facile d'avoir du crédit. Quand vous avez peu d'assets tangibles, c'est beaucoup plus dur d'avoir du crédit. Donc ce qu'on regarde, c'est qu'ils disent, voilà, on sait que ces secteurs-là, par nature, sont plus dépendants du crédit, quoi. Voilà, ils sont plus vulnérables à ne pas avoir le crédit. C'est plus dur pour eux d'en obtenir, voilà. Et on regarde si dans ces secteurs-là, eh bien, la croissance réagit davantage à une politique plus contracyclique, d'accord ? Et alors, on mesure les contraintes de crédit par le niveau de tangibilité des actifs, c'est-à-dire est-ce que c'est, par exemple, des trucs qui sont des actifs non tangibles, comme du savoir, du savoir accumulé, ou vraiment des machines, des bâtiments, etc. Hein ? Et on voit, alors d'abord, ça, c'est la contracyclicalité. Alors ça, c'est très intéressant, parce que vous voyez que les bons élèves et les mauvais élèves, les Suédois sont très contracycliques, vous voyez ? Ils sont très bons, les Danois, très bons, les Finlandais, évidemment, ça ne vous étonnera pas. Mais alors l'Italie, la Grèce, très mauvais, quoi, vous voyez, pas bon, hein. Et nous, OK, quand même, un petit peu, on est un petit peu contracyclique, voilà. Mais, donc c'est intéressant d'abord de regarder quels sont les pays procycliques. C'est intéressant de regarder aussi qu'est-ce qui détermine la contracyclicalité. Donc c'est vrai, quand il y a des gens qui disent qu'il faut réduire la dette publique, c'est pas mal aussi, parce qu'une dette publique moins importante fait que c'est plus facile d'être contracyclique, parce que je peux plus facilement emprunter sur les marchés extérieurs quand ça va mal pour rembourser quand ça va bien. Parce que si je sais que si tu as peu de dettes, Jean-Pierre, il a peu de dettes, ben il peut rembourser, plus, on sait qu'il va rembourser plus facilement quand ça ira mieux. Donc c'est plus facile pour lui de s'endetter quand ça va mal. Donc, tu vois, c'est intéressant de regarder les déterminants. Donc, il y a les déterminants d'économie politique dont j'ai parlé, c'est-à-dire l'Italie, le manque de confiance, la formation asymétrique, mais c'est aussi le fait, si j'ai pas trop de dettes publiques accumulées, c'est plus facile pour moi d'être contracyclique parce que j'ai une grande crédibilité pour aller sur les marchés quand ça va mal, pour emprunter, parce qu'on sait que je vais rembourser. D'accord ? Donc, c'est intéressant. Quand il y a des gens qui vous disent quand même, c'est bien de contrôler le niveau de la dette publique, je veux absolument pas dire dans ce cours qu'ils ont tort de le dire, parce que il y a quand même, ça vous permet notamment de mener des politiques beaucoup plus contracycliques. Je ne vous ai pas perdu, là, ça va, je vous ai encore là avec moi, là. Bon, et alors maintenant, on regarde et on voit que, en fait, quand on est plus contracyclique, eh bien, alors là, c'est des moins, vous trouvez des moins parce que, parce que les assets tangibles, c'est une mesure inverse de contrainte de crédit. Hein, quand j'ai des machines plus tangibles, c'est une mesure inverse de contrainte de crédit. J'ai des contraintes de crédit quand je n'ai pas d'assets tangibles. Donc, si c'était moins asset tangibility, tout ça, ça serait des beaux plus. Et vous voyez, trois étoiles, les régressions à trois étoiles, c'est celles du guide Michelin qui vous font aller au paradis. C'est celles qui marchent très bien, d'accord ? Et voilà. Mais donc, on voit vraiment que plus vous avez des contraintes de crédit, c'est-à-dire ici, moins vous avez de l'asset tangibility, plus l'effet d'une politique fiscale plus contracyclique sur la croissance est importante. Voilà. Et donc c'est intéressant, ça montre que l'intérêt de ça. Alors ensuite, il y a la politique monétaire, et on fait la même chose, on regarde comment la croissance dépend de l'interaction entre le degré de contracyclicalité monétaire, c'est-à-dire dans quelle mesure les taux d'intérêt à court terme baissent en récession ou pas, d'accord ? Et les contraintes de crédit. Alors évidemment, en Europe, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une seule banque centrale, mais on regarde l'évolution des prix également. Alors les contraintes de crédit, les contraintes financières, on les mesure par les contraintes financières, c'est où les contraintes de crédit, qu'on mesure à nouveau de manière inverse par la tangibilité des actifs, et puis où c'est les contraintes de liquidité qu'on mesure par le ratio entre les coûts du travail et le chiffre d'affaires. Si par exemple le remboursement des salaires, c'est une grosse part du chiffre d'affaires, vous devenez très illiquide, vous ne vous reste plus rien pour faire des investissements, vous avez très peu de liquidités. Et à nouveau, donc ça c'est les différentes contracyclicalités d'un pays à l'autre, et vous avez à nouveau... Alors là, c'est intéressant. Donc, asset tangibility, c'est une mesure inverse de contrainte de crédit. Donc, c'est ça que vous avez des moins. Tandis que labor cost to sale, c'est une vraie mesure directe du degré de illiquidité. Et donc, plus vous êtes illiquide, vous avez des problèmes de liquidité, plus évidemment, vous profitez, votre croissance profite d'une politique monétaire plus contracyclique. Voyez, donc, c'est intéressant. La contracyclicité monétaire et budgétaire, d'accord ? Alors après, j'en viens à la réglementation financière. Je veux regarder comment la croissance dépend de caractéristiques du secteur financier, notamment quelle est la part du capital dans les actifs de la banque, quelle est la part de son capital, donc jusqu'où elle fait du bal 2, bal 3 ou pas, quoi. Hein. Et les contraintes financières, c'est toujours les contraintes de crédit ou les contraintes de liquidité. Et ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, en fait, on voit que toujours on a il y a cette interaction toujours entre plus vous êtes contrainte de crédit, plus vous avez un effet de la politique monétaire contracyclique. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout dans les secteurs où il y a où il y a un faible niveau de c'est là surtout où il y a un faible niveau de capital to asset ratio. Le capital to asset ratio réduit, en fait, c'est ça, que le niveau de capital to asset ratio réduit quand même l'effet de la contracyclicalité. C'est-à-dire la contracyclicalité a toujours cet effet de stimuler la croissance, mais là où on met des banques, où on impose davantage de contraintes aux banques, de réglementation, ça réduit cet effet de la contracyclicalité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre balle 2, balle 3. Il faut à fond balle 2, balle 3. Mais ça veut dire qu'il vous faut, pour le même effet de croissance, encore beaucoup plus de contracyclicalité. C'est ça que ça veut dire. Et alors, la concurrence, je mets de la concurrence avec l'interaction politique monétaire et contraintes financières. Et ce qu'on montre, c'est que, en fait, c'est surtout ceux qui sont... les barriers to trade. Alors, on mesure la concurrence par barriers to trade in industry, c'est des mesures européennes, mais on peut le faire pour d'autres, avec d'autres mesures. Mais ce qu'on a là, c'est de dire, c'est surtout dans les secteurs qui ont beaucoup de concurrence, qui ont peu de réglementation, qui ont peu de barrières à l'entrée, que la contracyclicalité monétaire a un vrai effet. C'est intéressant. Parce qu'en fait, dans les secteurs qui sont très peu concurrentiels, ben les firmes, elles ont des rentes et elles peuvent utiliser leurs rentes pour emprunter. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, l'effet est beaucoup moins important parce qu'elles se reposent sur leurs rentes. Et c'est dans les secteurs où elles n'ont pas les rentes, ces rentes de monopole, où, évidemment, l'effet de la politique monétaire est beaucoup plus effectif, quoi. Voilà. Donc la conclusion, c'est qu'il y avait deux vues dominantes. La vision keynésienne, je dépense n'importe comment, etc. La vision conservatrice, je réduis à fond, je fais de l'austérité à fond la caisse avec des réductions d'impôts. Et nous, on montre que la contracyclicalité fiscale et monétaire peut aider les entreprises à maintenir leurs investissements de croissance le long du cycle. On montre qu'en fait, avoir un ratio de capital plus important, comme le veut Basel 2, Basel 3, ce qui est une bonne chose, eh bien, ça réduit les effets des politiques contracycliques. Donc ça fait un peu barrage à la transmission des politiques monétaires par les banques. Et enfin, eh bien, les barrières, disons l'absence de concurrence ou les barrières à l'entrée réduisent l'impact des politiques monétaires contracycliques. C'est intéressant. Et donc là, on arrive vraiment à Draghi qui dit, ben voilà, moi je vais vous faire la politique monétaire contracyclique, mais vous devrez rendre vos marchés plus flexibles, plus concurrentiels, etc. Vous voyez, on avait déjà vu, nous, un effet direct de la concurrence en elle-même pour l'innovation. On innove pour échapper à la concurrence, mais là, il y a un effet supplémentaire, c'est que quand on fait des réformes structurelles et qu'on a une économie plus flexible, ben ça augmente l'efficacité, croissance de politique macroéconomique. Donc ça, c'est un effet en plus, quoi. Voilà. Donc c'est intéressant de voir comment les deux s'articulent, quoi. Et c'est pour ça que souvent, ces gens-là, vous les voyez parler de réformes structurelles, dire de quoi ils se mêlent, ben, ils ont raison, parce que les politiques structurelles, ça influence l'efficacité, ça augmente les effets des politiques qu'eux peuvent avoir. Voilà un petit peu un premier aperçu, d'accord ? Alors, je vais maintenant passer à quelque chose de plus sophistiqué. Je vais parler de Draghi maintenant plus directement. Alors, il faut bien que je ne fasse pas de bêtises, parce que sinon, je dois faire appel à notre ami, vous vous souvenez ? Voilà. Alors, je fais maintenant celle-là. Voilà. Et je vais maintenant diaporama. Voilà. Draghi à la Banque centrale. Voilà. Donc, je vais regarder deux programmes qui ont été initiés par Draghi. Et c'est intéressant parce que les programmes, on peut voir, ils ont des effets différents sur différents types de pays ou différents types d'entreprises. Et ça a été des programmes très concrets pour, si vous voulez, relâcher la politique monétaire dans une période qui était la période de la crise, d'accord ? Donc c'était exactement une période comme ça, d'accord ? Donc voilà Draghi, hein. Moi, je sais pas, j'en ai un peu de photos, mais voilà celle que j'ai prise, on peut en prendre d'autres, voilà. Voilà, donc le premier, c'est le programme ACC. Alors, donc je vais parler un peu de ce programme. Voilà. Alors, en fait, c'est très intéressant, parce que c'est tout un débat intéressant. On a vu qu'il y a une décroissance, je vais revenir là-dessus, il y a une décroissance des taux d'intérêt. Ça, c'est les taux d'intérêt sur les bons à 10 ans. Mais on verra que c'est une chose... Il y a généralement une décroissance des taux d'intérêt, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Que ce soit aux États-Unis, dans la zone euro, etc. Et alors, il y a l'idée un peu de dire, voilà, je veux savoir quel serait l'effet de relâcher les contraintes financières sur les entreprises. Alors, moi, je vous ai dit, ça peut avoir l'effet de stimuler leurs investissements de croissance. Et on va voir cet effet-là, mais on va le voir directement sur quelque chose où on sait que c'est causal. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à l'heure, on pouvait dire que c'est une régression. Bon, on essaie de faire en sorte, il y avait les méthodes de mes amis Rajan Zingales qui, dans les années 90, étaient des méthodes acceptables sur la causalité, mais ce n'était pas vraiment une expérience naturelle. Et c'est toujours quand même plus sympa quand on a une expérience naturelle. C'est de la meilleure économétrie. C'est plus facile de se faire publier dans un bon journal maintenant quand on vient avec un essai randomisé ou avec une expérience naturelle. Voilà. On ne veut plus, avec les régressions, là, ce qu'avaient fait mes amis, qui était un peu les régressions que j'ai montrées tout à l'heure, on pouvait se faire publier dans un top journal il y a 20 ans, mais maintenant, c'est plus facile, plus difficile. Alors, le problème, un petit peu, c'est quand je relâche les contraintes financières, je vous ai parlé du phénomène zombie. C'est-à-dire, je veux dire, d'un côté, ça peut aider des entreprises qui ont besoin d'investir en R&D, etc. pendant. Mais le problème, évidemment, c'est que ça risque aussi de permettre à des entreprises qui ne sont pas très bonnes de rester. Et ça, ça peut augmenter le coût pour d'autres de rentrer. Parce qu'ils se font concurrence sur des ressources rares, notamment le travail. Hein. Donc, c'est intéressant. Maintenant, il faut toujours se dire, si je fais une politique qui aide les firmes en place, c'est bien pour les firmes en place, mais ça peut peut-être être mauvais pour l'entrée de nouvelles entreprises qui seraient peut-être plus innovantes que ces firmes en place. Donc, je vais regarder ça un petit peu aussi. Vous voyez ? Donc, ça, c'est une chose que les gens ne regardaient pas. Donc, ça peut dire que partant d'un endroit où j'ai beaucoup de contraintes de crédit, en les relâchant au début, c'est bon parce que ça permet aux firmes en place de faire davantage de R&D, etc. Mais peut-être qu'il arrive un moment où l'effet zombie domine et où ça fait retomber la croissance à cause de l'effet zombie. Vous voyez ? Et donc, voilà. Et donc, on regarde un petit peu ça. Alors, donc là, on a des bandes, grâce à la Banque de France, on a des bases de données qui sont très sympas sur les entreprises, d'accord ? Et ce qui se passe, c'est que les entreprises, elles sont cotées. Vous voyez, donc, par exemple, la cotation 3++ jusqu'à 4+, voyons, plus on augmente le nombre, moins on est bon ici, hein, d'accord ? Plus le nombre est faible, meilleur on est. Donc 3++, c'est très très bon. Hein. Après, tu as 2, je ne sais pas, mais je crois que c'est surtout, voilà, 3++, on sait que c'est des entreprises dont tu es sûr qu'elles vont rembourser, quoi. Tu es totalement fiable, quoi, tu vois. Et tu arrives jusqu'à 4+, donc ça, on appelle ça catégorie A. C'est vraiment des entreprises qui ont une forte capacité à rembourser. Et puis, vous avez les moyens, c'est les 4 et 5+, c'est OK, quoi. C'est OK. Et puis, tu as les mauvais, c'est ceux-là, quoi. Ceux-là, vraiment, ils sont quasiment en faillite. Tu penses que tu les reverras, l'argent, tu ne le reverras jamais, quoi, ou avec peu de probabilité, d'accord ? Et nous, on les classe comme ça, d'accord ? Et ça, c'est la Banque centrale qui classe les entreprises, d'accord ? Et voyez, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que là, on peut voir les probabilités de liquidation, parce qu'on peut voir après qu'est-ce qui s'est passé selon... Je connais ces cotations, et je peux regarder après quelle était la probabilité que les entreprises soient liquidées ou pas, parce que je peux dire quelle est la fraction des entreprises à chaque cotation qui sont liquidées ou pas. Et vous voyez que A, on est quasiment à zéro, quoi. Et en bas, c'est les moins productives, en haut, c'est les plus productives. Et vous voyez que d'abord, en A, dès que tu es dans la catégorie A, tu n'as pratiquement pas de chance, aucune chance d'être liquidé, d'aller en faillite, et ça ne fait pas une énorme différence entre la moins productive et la plus productive. Même la moins productive en A, elle est très bien, quoi, tu vois. Donc la moins productive, elle est en haut, la plus productive est en A, puisque c'est des probabilités d'être liquidé. Donc forcément, les moins productives sont au-dessus des plus productives, d'accord ? Mais vous voyez qu'après, la cotation... Le rating se détériore, plus évidemment, d'abord, la probabilité augmente de liquidation, et qu'évidemment, ça fait d'autant plus une grande différence entre celles qui sont les plus productives qui sont là et les moins productives qui sont là. Vous voyez, donc c'est un peu. Donc on voit que c'est des très bons prédicteurs, mais différents, et donc il y a une différenciation selon le type d'entreprise. C'est qu'aussi, plus la cotation est basse, plus ça fait une différence d'avoir une productivité haute plutôt qu'une productivité basse. D'accord ? C'est intéressant de voir ça. Alors, qu'est-ce que c'est que le programme ACC ? Donc ça, c'est le premier programme de Draghi. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, ben voilà, jusque en 2012, jusque fin 2011, les banques centrales, les banques commerciales pouvaient utiliser des prêts à certaines entreprises comme collatéral pour se refinancer auprès de la banque centrale, tu vois, c'était comme un actif, tu dis, j'ai cet actif-là, donc comme j'ai cet actif, vous pouvez je me refinance auprès de vous, tu vois. Alors, jusqu'à 2011, elles ne pouvaient utiliser que des prêts à des entreprises qui étaient celles-là, quoi, que les catégories A. Je ne pouvais pas utiliser des prêts allant au-dessous de la catégorie A pour me refinancer auprès de la banque centrale, comme banque commerciale. Et que fait Draghi ? Draghi dit, écoutez, moi, je vais relâcher la laisse, je vais garder celle-là et je vais ajouter les 4, tu vois. Hop, clac. Alors, les 5 sont toujours pas dedans, eux sont pas dedans, mais je vais mettre les 4. Alors là, c'est la beauté de la chose, c'est que ça, c'est le groupe de traitement et ça, c'est le groupe de contrôle. Et je vais pouvoir voir les évolutions différentes des 4 et des 5+. Alors, évidemment, à partir du moment où on dit que les entreprises, que les prêts des banques aux entreprises qui sont considérées cadres peuvent être utilisés pour se refinancer, évidemment, que vont faire les banques centrales? Eh bien, elles vont financer à fond les entreprises cadres, évidemment. Mais pas les autres, mais pas les cinq. Vous comprenez? Parce qu'elles peuvent utiliser les prêts au premier pour se refinancer, mais pas les prêts au second. D'accord? C'est une belle expérience naturelle, ça. Hein, et effectivement, regardez, donc voilà. Donc c'est ce cas. Le programme étend l'éligibilité pour inclure les firmes qui sont notées 4. Et ce programme est en fait mis en œuvre en février 2012. Et regardez la beauté. Mouah ! Regardez. Ça, c'est le groupe de contrôle. Adieu, adieu les 5 plus. Bla, bla. Et puis ça, c'est le groupe 4. Vous voyez ? C'est beau comme tout, ça. Hein ? Beautiful, non ? Voilà. Et alors après, on regarde l'effet sur la croissance de la productivité des entreprises côté 4. Et regardez, donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, alors qu'est-ce que c'est traité? Traité, ça veut dire que je suis dans le groupe 4 et pas dans le groupe 5+. D'accord? Je compare les 4 et les 5+. Je fais du difference in difference, comme on dit en anglais. Je compare les 4 et les 5+. Ça, c'est une variable de temps qui vaut 0 avant 2012 et 1 après 2012. Et on regarde, évidemment, est-ce que moi, je suis 4 avant versus après 2012? Et je compare à si je suis 5+. Et tu vois d'abord que... donc, nous, ce qu'on pense, c'est qu'évidemment, ce terme doit être très, très positif. Quoi. C'est évident que tu es d'autant plus... Donc, si tu es dans le 4, tu vas avoir plus de crédit, donc ta croissance va augmenter. Et effectivement, qu'est-ce que tu vois là? C'est que le coefficient qui est là, il est positif partout. Alors, ce qui est intéressant... c'est qu'il cesse d'être, positif là. Alors, il est positif partout, mais il l'est surtout dans les secteurs qui sont dépendants de la finance extérieure. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais les secteurs qui sont contraints à crédit, c'est-à-dire des secteurs dont l'équivalent aux États-Unis, c'est des secteurs qui ont besoin de crédit, vous voyez. Ben, c'est dans ces secteurs-là que c'est important, pas dans les autres. Donc déjà, vous voyez que c'est vraiment une histoire que je relâche le crédit, quoi. Donc c'est beau comme tout, quoi. Et dans les secteurs qui ne sont pas dépendants, cet effet n'est pas là. Il est que dans les efforts dépendants. Et alors là, qu'est-ce que j'ai fait dans ces deux-là? Je remplace cette variable qui vaut 0 avant 2012 et 1 après à une variable qui vaut 0 avant 2006 et 1 après 2006, c'est-à-dire une date qui n'est pas la date Draghi, vous voyez. Et là, évidemment, il n'y a plus rien, quoi. D'accord? Et les deux dernières colonnes, c'est qu'au lieu de regarder 4 versus 5+, je regarde 3 versus 4+, ou 5+, versus 5. Et à nouveau, aucun effet, quoi. Donc, c'est vraiment c'est magnifique, quoi. Tu vois, vraiment, c'est le 4 et les firmes 4 par rapport aux autres. À ce moment-là, elles ont une croissance de la productivité plus forte, quoi. Dans les secteurs où les contraintes de crédit sont importantes. D'accord? Tu vois, c'est vraiment du net, ça. Tu vois, ça confirme ce que j'avais dit tout à l'heure, mais de manière, avec vraiment une expérience naturelle, quoi. Donc, c'est quand même moche. Et c'est ça l'intérêt des politiques aussi. Ils vous font des expériences et on peut les utiliser. D'accord? Mais alors, la mauvaise nouvelle, c'est l'effet zombie. C'est-à-dire que l'effet zombie, c'est que, en fait, ça, c'est le taux d'exit, le taux de défaut. Et, en fait, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, eh bien, quand je donne plus d'argent, je permets aussi à des firmes de survivre mieux. Donc, je réduis le taux de défaut. Mais ce qui est intéressant, c'est donc je le réduis surtout pour l'interaction ACC4, elle est surtout importante. Vous voyez, pour les firmes à faible productivité, c'est celles-là qui sortent moins. Les autres, elles ne seraient pas parties de toute façon. Mais j'empêche des firmes inefficaces 4 de partir. Et ça, c'est toujours le mauvais effet de ces politiques. Donc, il faut bien toujours avoir conscience. Quand on relâche la bride sur le crédit, on permet à des firmes existantes de faire plus, mais les mauvais, qui eux, de toute façon, ne feraient pas grand-chose, on les laisse davantage rester. Ce qui rend d'autant plus coûteux pour des bons de venir. Donc, il faut toujours avoir ça en tête. Et c'est vrai pour la politique industrielle également. La politique industrielle, si tu aides juste les firmes en place, c'est au détriment de peut-être meilleures firmes qui pourraient rentrer. D'accord? Et ça, on le voit à nouveau, cet effet zombie. C'est intéressant. Mais malgré tout, il a eu raison, Draghi, même malgré qu'il y ait quand même des firmes moins productives. D'accord? Voilà. Donc, le programme ACC a stimulé la croissance de la productivité dans les firmes existantes, mais il a eu un effet négatif parce qu'il a permis à des firmes surtout pas efficaces côté 4, qui était noté 4, de rester. Et donc, c'est un effet de réallocation qui peut, à terme, se révéler contre-productif sur la croissance. Parce que vous devez regarder, quand vous regardez la croissance d'une économie, vous ne regardez pas juste les firmes en place, vous regardez également les entrants, etc. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est le premier programme qu'a fait Draghi. Maintenant, je parle d'un deuxième programme qu'a fait Draghi. Alors, voilà. C'est le programme OMT. Alors, qu'est-ce que c'est que le programme OMT ? Oui, tiens, c'est ce que j'avais montré tout à l'heure, vous vous rappelez, quand je disais que la politique contracyclique monétaire, elle avait plus d'effet quand vous avez plus de concurrence, moins de barrières, low barriers to trade and investment, que vous avez high barriers to trade and investment. Ça, je vous remonte simplement la figure correspondant à ce que j'avais tout à l'heure, hein, dans, quand je regardais l'interaction entre les politiques contracycliques et la concurrence. Donc, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Pourquoi la concurrence est importante ? Parce que quand il n'y a pas de concurrence, ou peu de concurrence, eh bien, les entreprises ont des rentes qui leur permettent de réinvestir, qu'il y ait ou pas des fonds publics ou de la contracyclicalité. Donc, évidemment, la concurrence faible, ça augmente aussi, évidemment, le fait que vous avez plus de chances. C'est surtout dans les secteurs avec faible concurrence que, évidemment, des mauvais peuvent rester. Hein, ça, c'est évident. Alors, qu'est-ce que c'est que le programme OMT ? En 2011-2012, il y a... Les taux d'intérêt, hein, les bond yields, les government bond yields, c'est les taux sur les obligations des gouvernementales, hein, et donc qui augmentent, d'accord ? Et donc, quand les taux augmentent, ben, vous avez peur de ne pas pouvoir rembourser, vous allez faire défaut, vous ne pouvez pas repayer vos dettes, hein, donc toujours la peur de la montée des taux. Hein. Et qu'est-ce que c'est que le OMT ? Donc, c'est à nouveau Draghi qui a fait ça. C'est un engagement par la Banque Centrale Européenne de racheter des obligations d'État, d'accord ? Mais sous condition. Et alors, c'est destiné surtout à des obligations à court terme, mais en fait, l'effet a été suivi d'effets très importants dans les taux à long terme. Vous voyez, donc c'est ça qui est très bien, c'est que ça a affecté également les taux à long terme, et donc ça a eu un effet vraiment important sur la macroéconomie. Et là, non. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas été tellement utilisé. La simple annonce de ce truc-là a eu un effet très important. C'est intéressant. Voilà. Alors, donc, à nouveau, je vais faire de difference in difference. Hein, je vais comparer avant et après la mise en œuvre de ce programme, d'accord ? Et je regarde l'effet de ce... et je regarde, en fait, l'effet d'abord que ça a sur ce qu'on appelle les effets des bons à long terme, des effets non attendus. Vous voyez, donc, parce que ce qui est important, c'est la surprise. Vous voyez, donc, vous voulez provoquer un effet de surprise sur les taux à long terme. Et donc, je vais regarder d'abord l'effet que cette OMT a eu sur la surprise, bonne ou mauvaise, sur les taux à long terme. Et après, je regarde l'effet de cette surprise-là sur la croissance. D'accord ? Donc, c'est ça que je regarde. D'accord ? Voilà. Donc, et donc, j'annonce déjà ce qui se passe. C'est que en fait, eh bien... cette politique OMT a provoqué une chute non anticipée des taux sur les gouvernements à long terme qui par lui-même a eu un effet positif sur la croissance, notamment dans les pays très endettés évidemment, hein, et très de manière intéressante également dans les pays où il y avait davantage de concurrence. Vous voyez, donc à nouveau un effet où c'est la concurrence joue un rôle, ça a été plus d'effet, on va voir, là où il y avait plus de concurrence. Vous voyez, donc là on revient à Jackson Hole, hein. Très important, le discours de Jackson Hole. Voilà, donc voilà, parce que nous, d'une manière générale, j'avais regardé déjà tout à l'heure l'effet de la politique monétaire, mais malgré tout ce que je pouvais faire, on pouvait me dire, oui, mais la croissance peut affecter ta capacité de baisser le taux d'intérêt. Ça peut être plus facile pour toi de baisser tes taux d'intérêt quand tu as davantage de croissance. Donc ça crée des corrélations que tu ne veux pas entre cyclicalité monétaire et taux de croissance, tu vois. Donc, et c'est pour ça que nous, on regarde à nouveau une expérience naturelle et qu'on regarde d'abord cette OMT et puis qu'on regarde comment ça transite par les effets non anticipés sur les bons. Voilà, tu vois, c'est le côté, c'est pour vraiment adresser l'endogénéité. C'est l'effet de la surprise qu'on regarde. Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, bon, ne vous regardez pas les maths, juste regardez ce que je veux dire. Ça veut dire simplement, vous embêtez pas avec les maths, ça, c'est le taux d'intérêt réalisé. Et ça, c'était l'espérance de taux que nous avions avant. C'était la prévision. Donc la surprise, c'est la différence entre la réalisation et la prévision. C'est tout, regardez pas les maths, d'accord? La différence entre la prévision, la réalisation et la prévision, on appelle ça une surprise. Bon, ça vous passe, ça va quand même. Ça va jusque-là, d'accord, très bien. Voilà. Et les anticipations sont faites de trimestre en trimestre, d'accord? Et donc, on regarde l'évolution de ça, tu vois. Il y a toujours des surprises là-dessus, mais on veut voir comment le OMT va affecter la variation de ça, d'accord? Voilà. D'accord, donc on va regarder ce qu'était, si tu veux, de 2013, de 2011 à 2012 par rapport à 2013-2014. Et là, alors on voit des choses très amusantes. C'est que, vous voyez, là on est en Espagne, ça c'est des pays où il y a des contraintes de crédit, hein, et où il y a beaucoup de dettes, c'est des pays où il y a beaucoup d'endettement. Et on regarde l'effet sur le government yields, et c'est les bâtons. Et ça, c'est les erreurs. Hein. Donc, avant 2013, la fin de là, on est en pleine crise des financières. On est en pleine, on est en plein, d'accord. Donc, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, on a une surprise, c'est que les taux des bons étaient au-dessus de ce qu'on anticipait. C'était ça qui s'est passé dans l'Espagne, en Italie. C'est que les taux ont augmenté au-delà de ce qu'on anticipait. Et donc, dès que c'est au-delà, ça monte. Dès que c'est en dessous, ça baisse. Arrive Draghi, boum! Et là, ça devient en dessous. La surprise va être le contraire. Ça va être en dessous de ce qu'on pensait. D'accord? C'est vrai en Italie, en Espagne et en Italie. D'accord? Donc, c'est-à-dire que, en fait, donc, pendant la crise des dettes souveraines, les taux à long terme étaient réalisés étaient au-dessus des, coûts, des taux anticipés. Après l'OMT, les taux à long terme tombent en dessous des taux anticipés, en Espagne, en Italie. Et en fait, l'OMT a joué un rôle très important de faire passer... on était trop optimiste en Espagne, en Italie, on devient... Et là, du coup, on devient trop pessimiste presque, parce que la réalité va être mieux que à quoi tu t'attendais. D'accord? On crée la bonne surprise, après la mauvaise, la bonne. D'accord? Voilà, alors c'est moins le cas... Voilà, donc ça, c'était la crise souveraine, et là, c'est les périodes post-OMT, vous voyez, c'est vraiment radical, hein. C'est incroyable. Hein. Voilà, alors c'était moins le cas en France et en Allemagne, c'est un petit peu plus négatif après qu'avant, mais en France et Allemagne, qui étaient des pays où quand même, c'est quand même un peu moins, et pareil, États-Unis, Angleterre, moins. Alors maintenant, on regarde l'effet que ça a sur l'emploi, et du coup, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, alors que je regarde, donc là, voilà, je regarde maintenant où j'en suis, 1, 2, pas que je perde mes notes, là, voilà, très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je regarde? Eh bien, avant, pendant la crise, eh bien, l'emploi était, le taux de chômage est au-dessus de ce que j'anticipais. Comme j'ai eu une mauvaise surprise sur les taux, eh ben, l'emploi va baisser beaucoup. Et donc les firmes réduisent l'emploi, et l'emploi du coup baisse beaucoup plus que ce que je pensais. Tandis qu'après Draghi, l'emploi va augmenter plus que ce que je pensais. D'accord? Donc avant l'OMT, le taux de chômage est au-dessus de ce que je pense, parce que je surréagis comme entreprise, mais après, eh bien, le taux de chômage va baisser encore plus que ce qu'on pensait, ça provoque une vraie baisse du chômage, quoi. D'accord? Voilà. Et ça, c'est le chômage. Ça, c'est la croissance. Hein, la croissance qui se passe, c'est que la croissance baissait et la croissance va monter. Regardez, c'est beau, ça, quand même. La croissance baisse et la croissance remonte. Voilà l'effet de ces politiques. D'accord? Voilà. Alors maintenant, je peux regarder maintenant les réglementations. Donc, on sait qu'on a des mesures au CDE sur le degré de régulation. Donc, plus qu'on a de la product market regulation, c'est des réglementations sur le marché des biens, ça veut dire moins j'ai de concurrence. Hein. Donc, nous, les Français, on est quand même pas mal. Hein. Vous voyez comme on réglemente pas mal. Donc, on est très bon pour ça. Hein. Voilà. Donc, et on sait ce que c'est, barrière to trade and investment. Enfin, nous, voilà, on est assez bon. Hein. State control, évidemment, très important, etc. D'accord? Donc, la France, l'Espagne et la Belgique ont les plus hauts indices de réglementation. Hein. D'accord? Mais c'est en Espagne que je crois que voilà. Donc voilà. Alors, ne vous embêtez pas avec les équations. Tout ce qu'on va vouloir dire ici, c'est que c'est que d'abord, ce que je fais, c'est que quand j'ai de la dette, eh bien, j'ai de la dette, et là, la baisse des yields. Eh bien, plus j'ai de la dette, plus la baisse des yields va augmenter la croissance. Donc ça sera la première chose, c'est ce que on montre, c'est la première chose. Mais cet effet est moindre quand j'ai plus de réglementation. C'est-à-dire que vous êtes un pays très endetté, je réduis vos bondiges en faisant de l'OMT, mais l'effet de ça est réduit si vous avez moins de concurrence. Et je reviens à Jackson Hole, vous comprenez? Vous voyez? Et ça, on le voit là, on voit que plus je suis endetté, plus l'effet de la baisse en anticipé des taux grâce à l'OMT est grand. Donc ça, c'est là. Mais vous voyez que c'est réduit. Vous voyez, il y a du moins quand j'ai plus de réglementation. Vous voyez? Donc l'effet d'avoir fait baisser la surprise, d'avoir fait une bonne surprise après une mauvaise, eh bien, grâce à l'OMT, c'est très bon, d'autant plus si vous êtes endetté, mais d'autant moins si vous avez peu de concurrence. Et on revient à Jackson Hole. Réforme structurelle avec politique monétaire. Ça va ensemble, quoi. D'accord? Voilà. Bon, bah écoutez, déjà, on est là, donc c'est très bien, donc voilà. Donc, je ne veux pas faire trop. Donc, conclusion, eh bien, on a trouvé que les secteurs très endettés bénéficient beaucoup plus du changement non anticipé, de la baisse non anticipée des taux à long terme qui suivent l'OMT, mais surtout dans les pays où il y a davantage de concurrence, c'est-à-dire moins de réglementation des produits. Voilà, donc ça c'est... Et puis l'autre conclusion, c'est qu'évidemment, faciliter le crédit, ben, d'une manière générale, eh bien, ça peut avoir des effets négatifs qui sont les effets de zombie, mais évidemment, moins s'il y a davantage d'entrées d'entreprises qui peuvent remplacer. Voilà, c'est d'autant plus vrai s'il y a peu de concurrence. Voilà. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais raconter maintenant. Tout ça, c'est les politiques contracycliques. Alors donc ça, c'est un aspect, les politiques contracycliques. Maintenant, je voudrais dire, voilà, il n'y a pas que les politiques contracycliques. Il y a le fait qu'il y a des gros investissements qu'on veut faire à long terme. Moi, je suis en train de lire un livre de Jérôme Fourquet et co-auteur sur la France, et ça vous laisse vraiment froid, quoi, parce que tous les endroits se désindustrialisent en France. C'est terrifiant, mais c'est raconté vraiment la Ciotat, l'Agnon, ça va dans toutes les régions de France. Et comment ça dévitalise la France. C'est un pays qui s'est dévitalisé en se désindustrialisant trop. On sait qu'on doit réindustrialiser par l'innovation. On sait qu'on doit investir beaucoup dans l'éducation, parce qu'on ne fera jamais un pays d'innovation avec les tests PISA que nous avons en ce moment. Donc et ça, c'est indépendant de la politique contracyclique. C'est-à-dire, il y a d'un côté la politique contracyclique, mais de l'autre côté, on doit investir pour faire une croissance plus verte, plus inclusive et plus soutenue. On doit réindustrialiser d'une manière qui soit plus verte et on doit éduquer et on doit faire ça permet d'augmenter. On a vu que éduquer davantage, ça vous fait une politique, ça vous fait à la fois davantage de croissance par l'innovation et également une croissance plus inclusive. On a vu également qu'une bonne flexi-sécurité sur le marché du travail, ça vous fait aussi une croissance plus soutenue et une croissance plus inclusive et plus protectrice. Donc tout ça, il faut de l'argent. Et ça, c'est distinct de la contracyclicalité. Ça, c'est plutôt, on doit investir dans le long terme. Or, nous avons une grosse dette publique, notamment après le Covid. Donc, comment on fait? Donc, maintenant, je vais consacrer l'heure qui reste à vous parler de dette publique et de dette publique et de croissance. Mais là, ce n'est pas tellement contracyclique. Alors, on sait que contrôler la dette publique, c'est bien parce qu'on peut faire des politiques plus contracycliques. Ça, vous le gardez dans un coin de votre... Hein, mais on a en même temps le problème que nous devons faire ces investissements. Et ça, on doit les faire, quoi. Et donc, comment on peut réconcilier dette publique et ses investissements? Donc ça, je vais parler de ça maintenant, d'accord? Alors, je vais y aller tout doucement, d'accord? J'espère que c'est tout doucement. Si je vais trop vite, levez la main. Est-ce que là, vous êtes encore vivant? Est-ce que c'est bon, là? Bon, c'est super. Oui, c'est bon. Voilà, donc je vais... Alors, je vais regarder... Donc voilà, Blanchard va sortir un livre sur les politiques budgétaires dans des situations où les taux d'intérêt sont faibles. Donc vous avez la primeur de ce que fait un peu Olivier Blanchard. Alors les taux d'intérêt, donc je regarde un peu, donc là je vais ranger déjà ma première, parce que moi si je mélange tout, là je m'en sors plus, d'accord, voilà, pas que je mélange toutes mes feuilles, voilà. Bon, là, j'ai les feuilles qu'il faut, là, maintenant, cette partie-là. OK. Alors, le taux d'intérêt. Donc, d'abord, le taux d'intérêt neutre. voilà. Donc c'est le taux d'intérêt sans risque. Hein. C'est le taux d'intérêt auquel, en supposant que la production est égale, ce qu'on appelle la production potentielle, c'est ce que vous pouvez produire quand vous êtes en plein emploi, quand vous employez pleinement vos facteurs de production. Quoi. Voilà, d'accord. Le travail, le capital, c'est ce que vous pouvez produire. C'est ce qu'on appelle la production potentielle, d'accord. Et le taux de neutre, c'est le taux qui fait que la demande c'est que la demande totale est égale à l'offre totale. Alors la demande, c'est une demande de consommation et c'est une demande d'investissement. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, en gros, et le taux d'intérêt, comment tu le détermines? Ben, tu dis, voilà, l'investissement, typiquement, c'est quelque chose qui est une fonction, béton qu'on soit au plein emploi. Donc l'investissement, ben, il dépend évidemment de la production totale, mais on le suppose au plein emploi. Et on sait que l'investissement tend à diminuer quand le taux d'intérêt augmente. Voilà, parce que par exemple, il y a différentes manières de voir ça, mais par exemple, moi j'ai le choix entre prêter à une entreprise ou mettre à la banque. Si le taux d'intérêt est plus important, je vais plutôt préférer mettre à la banque. Mettons qu'il y a des très bons projets qui rapportent plus que le taux d'intérêt, et j'investis dans les entreprises, et puis les projets où j'ai plutôt intérêt à avoir mon argent à la banque. Plus le taux d'intérêt à la banque est élevé, moins j'ai intérêt à mettre de l'argent dans les entreprises, parce qu'il n'y aura que les très 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 bons projets qui sont au-dessus. Donc plus le taux d'intérêt est élevé, plus l'investissement est faible. D'accord ? Bon. Donc on sait que l'investissement est une fonction décroissante du taux d'intérêt. L'épargne est une fonction croissante, évidemment. Plus vous avez le taux d'intérêt, plus vous épargnez. Donc ça, c'est pas besoin de faire un dessin. Et le taux d'équilibre, c'est le taux qui équilibre l'épargne et l'investissement. Voilà, c'est tout bête, d'accord ? Et c'est ça le taux neutre. Donc c'est vraiment très simple, d'accord ? Alors évidemment, on peut dire, donc c'est le taux qui, tel que la demande globale générée, la demande globale à ce taux génère un Y égal au Y star. Voilà, c'est ça l'idée. C'est un taux tel que la demande globale, investissement plus consommation, qui est à ce taux. La consommation, c'est Y moins l'épargne. Hein. Donc, vous génère une production égale à la production potentielle. Alors, il se peut, par exemple, vous pouvez être en situation de sous-chauffe. Si, par exemple, vous avez ça peut se stabiliser à tel que vous avez un R tel que le Y est égal, l'offre est égale à la demande. C'est un Y qui est de sous-emploi. Vous voyez, ça vous fait arriver un Y en dessous du Y star. Là, c'est un Y où vous avez du chômage. Donc là, vous allez vouloir plutôt que les taux augmentent et chauffer plus l'économie. Ça, c'est une économie qui est tranquille, quoi, qui est d'accord, où elle se... Donc, c'est une économie à taux plus faible. Et, par contre, là, c'est une économie à surchauffe, vous voyez, cette économie-là. Voilà. Donc, pardon, c'est celle-là. Là, vous avez des taux très élevés. Des taux très élevés, ça décourage l'investissement. Ça encourage beaucoup l'épargne, donc ça réduit la consommation, ça réduit beaucoup la demande, et donc l'équilibre sur le marché des biens se fait à un niveau au-dessous du plein emploi. Ça, c'est par contre, c'est quand le taux est au-dessus du taux de neutre. Et ça, quand les taux sont trop bas, ce qui se passe, c'est que la demande est au-dessus de l'offre. Et là, ça devient inflationniste. Donc vous voulez éviter l'inflation d'un côté, qui est la surchauffe, et vous voulez éviter le sous-emploi. D'accord ? C'est toujours entre ces deux bornes-là que vous êtes. Hein ? D'accord ? Et notamment, et le taux R star, il vous évite la surchauffe, il vous évite, hein, il vous met le plein emploi et il vous évite l'inflation, d'accord. En gros, c'est comme ça que vous pouvez le voir. Voilà. Donc, par exemple, qu'est-ce qui se passe si il y a le taux? Alors, je regarderai tout à l'heure qu'est-ce que c'est que le taux risqué avec la prime de risque. Je reviendrai sur ce que c'est que la prime de risque tout à l'heure. Et vous avez le fameux taux qui est le taux d'intérêt des obligations d'État. Et supposez maintenant que vous augmentez la prime de risque. En fait, ce qui se passe, c'est que l'investissement, dans la réalité, il dépend du R plus la prime de risque. Quoi. C'est ça, c'est ce taux-là qui compte pour ceux qui font des décisions d'investissement. C'est ce taux-là qui compte. Supposez que tout d'un coup, vous augmentez la prime de risque de X à X plus delta X, ça va vous faire baisser l'investissement, et il va se stabiliser à un niveau qui est plus élevé que ce que vous aviez avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est... Donc, vous allez avoir une diminution du R-star, mais ce qui compte, c'est que malgré que le R-star baisse, le R-star plus X plus delta X sera plus grand que le R initial plus le X. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le taux sûr, comme vous allez faire baisser la demande, ça va faire baisser le taux d'intérêt sûr, mais le taux d'intérêt auquel les entreprises font face, qui est la somme du taux d'intérêt sûr et de la prime de risque, lui va rester plus grand qu'avant. D'accord ? Donc vous aviez un R initial avec un X Et après, vous augmentez le X de delta X, ça fait baisser le R initial parce que l'investissement va baisser, la demande d'investissement va baisser, mais pas assez pour compenser pour le delta X, ce qui fait que le taux total, le nouveau R plus le X plus le delta X, va être plus grand quand même que le R initial plus le delta X. Alors, dans les banques centrales, typiquement, elles veulent éviter la surchauffe et le sous-chauffe, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, vous voulez absolument maintenir le R à R star. D'accord, donc voilà, donc ça, ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Alors je voulais juste vous dire une autre chose, je donne des ingrédients, hein. Un autre ingrédient, c'est que les banques centrales ne fixent pas le taux d'intérêt réel. Les banques centrales, elles contrôlent le taux d'intérêt nominal sur les bons, vous voyez, et c'est intéressant parce que ce taux d'intérêt nominal, il ne peut pas être a priori négatif. En général, il est positif. Alors, il peut être légèrement négatif. Maintenant, on a des taux d'intérêt, mais on peut être légèrement négatif. Il ne peut pas être très négatif, d'accord ? Et le taux d'intérêt réel, c'est, alors on a cette relation-là, qui est l'équation de Fischer. Et je vais vous expliquer ce qu'elle veut dire, cette équation. Alors, en général, le taux d'intérêt réel, hein, je vais vous le montrer de cette manière-là, le taux d'intérêt réel, c'est le taux d'intérêt nominal moins l'inflation anticipée. C'est-à-dire que le taux d'intérêt I, c'est le R plus pi I. Alors, comment je le sais, ça ? Comment je sais ? Eh bien, regardez, supposez que vous avez $1 en obligation aujourd'hui. D'accord ? Entre demain et aujourd'hui et demain, le pouvoir d'achat va... il va augmenter. Le pouvoir d'achat, il va augmenter d'un taux, si vous voulez, si vous mettez B aujourd'hui, demain, ça fera 1 plus I sur 1 plus pi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est l'inflation. D'accord ? C'est-à-dire que ça va être le taux vous regardez le taux d'intérêt nominal, mais en même temps, vous prenez en compte le fait que vous, ce qui vous intéresse, c'est le pouvoir d'achat. C'est ce que vous pouvez acheter avec, quoi. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est que le pouvoir d'achat d'un bon aujourd'hui, demain, il vous donnera un pouvoir d'achat. Celui d'aujourd'hui, plus I, qui est le taux d'intérêt nominal, moins le taux d'inflation. Et c'est ça qui compte pour vous. C'est ça, le R, d'accord ? Le R, c'est ça. D'accord ? C'est ça qui va déterminer vos décisions d'investissement. D'accord ? Le taux d'intérêt nominal est décomposé en taux d'intérêt réel et le taux d'inflation espéré. Et donc, c'est ça qui est le... c'est ça qui est là. Une autre manière de le dire, c'est que vous avez l'obligation, elle vous donne... Vous avez le choix entre l'obligation et de tenir de la monnaie. Si vous détenez l'obligation, l'obligation, elle vous donne un R. La monnaie, elle vous donne un moins pi, puisque si vous donnez du liquide, ça vous donne moins pi, d'accord ? Donc, le coût d'opportunité de détenir de la monnaie, eh bien, c'est R moins pi, qui est R plus pi. Et ça, c'est le taux d'intérêt nominal sur la monnaie. Vous voyez, c'est une autre manière de voir la chose. Bon, est-ce que vous comprenez que s'il n'y avait pas d'inflation, le taux d'intérêt et le taux nominal, c'est pareil ? D'accord. Donc, vous regarderiez que le taux nominal. Mais quand vous regardez vous-même, vous dites, oui, mais moi, je dois tenir compte de l'inflation qui me réduit. Donc, je dois soustraire le taux d'inflation au taux nominal. Et c'est ça qui va être l'équivalent de placer cet argent quelque part en réel. D'accord ? OK. Alors, le problème, c'est que le I... nominal, il est en général positif ou très peu négatif, ce qui fait que le R, il y a donc si vous voulez, ça c'est le fait que c'est ce qu'on appelle une contrainte. Vous voyez, le R peut pas ça donne, si vous voulez, que comme le I ne peut pas être très négatif, le R peut pas être en dessous de moins pi, quoi, ou très peu en dessous de moins pi, d'accord. Donc ça vous donne quand même une contrainte, hein, d'accord. Et c'est pour ça que souvent, quand on arrive là, les banques disent, ben, moi, je peux faire un peu de quantity easing, je peux baisser I jusqu'à zéro ou très peu, un peu en dessous de zéro. Après, je peux faire des achats de bons, tu vois, je peux faire des choses comme ça. Mais après, le reste, c'est le budgétaire qui doit faire le travail. Et c'est là que, dès qu'on arrive à ce niveau-là, eh bien, les banques souhaitent que la politique budgétaire prenne le relais de la politique monétaire. D'accord ? Bon, alors, l'évolution des taux d'intérêt. Sur 10 ans, les taux d'intérêt aux États-Unis ont baissé. Mais aussi au Japon et la zone euro. D'accord ? Donc, c'est des obligations à 10 ans, des taux d'intérêt sur les bons à 10 ans qui sont considérés comme sûrs. Voilà, donc c'est un bon indicateur du taux d'intérêt moyen de la dette publique. Même si la baisse débute plutôt au Japon, la diminution de taux de sécurité du taux sûr est observée au sein des trois économies. Donc ça suggère que les mêmes forces sont à l'œuvre. Et alors maintenant, et c'est un phénomène de long terme, vous voyez, donc il y a les crises financières qui, à un moment donné, font remonter les taux, mais c'est jamais durable. Donc vous pouvez avoir des augmentations de taux temporaires, mais elles ne sont pas durables. D'accord ? Voilà, donc ça c'est la figure, parce que la dernière fois, j'ai quelques personnes qui voulaient des figures en plus grand, donc on a demandé de faire les figures en plus grand, voilà. Et donc on a accédé à vos demandes. Et alors là, ce qui est très sympa, c'est que la baisse des taux, apparemment, par les historiens vous disent que ça commence en 1320. Vous voyez, déjà, les taux baissent, d'autant qu'on vienne, une tendance décroissante, c'est ça, trend, hein, je dirais tendance, une tendance décroissante du taux d'intérêt, voilà, même historiquement, vous voyez, d'accord. Et alors le truc intéressant, c'est qu'on peut comparer le R et le G, et ça je vous en parlerai tout à l'heure, pourquoi c'est important de comparer le taux d'intérêt sûr et le G. Donc je vais baisser, je vais lever ça, voilà, et je vais baisser ça, voilà, ah oui, donc je veux comparer le R et le taux de croissance de l'économie, vous voyez ? Le taux de croissance du PIB et le taux d'intérêt sûr, d'accord ? Et ce qui est très intéressant, c'est que le taux d'intérêt est en rouge et puis la croissance est en bleu. Et vous voyez que, en tout cas maintenant, le taux de croissance est au-dessus du taux d'intérêt sûr et que l'écart va croissant. Donc ça, c'est une chose importante à noter, d'accord ? Donc ça, on va s'en servir tout à l'heure, d'accord ? Alors, parmi les facteurs susceptibles d'avoir influencé, la raison, c'est que c'est sans doute espérance de vie et les comportements, disons que parmi les facteurs susceptibles d'avoir influencé l'épargne, et donc c'est l'idée que, en fait, l'épargne, comme un excès d'épargne, à chaque fois il y a un excès d'épargne par rapport à de l'investissement qui oblige le taux d'intérêt à monter. Je vous ai dit tout à l'heure, le taux sûr, c'est l'égalité entre l'épargne et l'investissement. Mais il y a une tendance à l'augmentation de l'épargne mondiale. Et donc, si je garde le taux, il y a un excès d'offre d'épargne, tu comprends ? Donc il faut que le taux baisse pour que l'investissement s'aligne sur l'épargne qui augmente, d'accord ? Et donc parmi les facteurs susceptibles d'avoir influencé l'épargne, nous pouvons évoquer les évolutions démographiques, baby boom, l'augmentation de la longévité, la baisse de la fertilité, ça va dans le mauvais sens évidemment, le rôle de l'accumulation de réserves internationales par les pays émergents est aussi souvent considéré comme un facteur majeur, voilà, donc donc on voit un peu les évolutions du taux sûr. Et en fait, si vous voulez, ce qu'il dit sur les évolutions démographiques, c'est que y a une diminution de taux de fécondité, effectivement, qui est plus prononcée dans les pays développés et moins dans les pays moins développés, d'accord. L'augmentation de l'espérance de vie est vraie partout, et il y a l'effet du baby-boom. Donc, en termes de fécondité, au total, c'est vrai que tu as une baisse de fécondité, mais surtout dans les pays développés, beaucoup moins dans les pays moins développés, et l'espérance de vie, elle, a augmenté absolument partout. D'accord. Donc tu as ça, c'est au total, ça va dans le sens d'augmenter l'offre d'épargne, parce qu'évidemment l'augmentation des espérances de vie pousse les gens à épargner davantage. Hein. Ils doivent subvenir à leurs besoins plus longtemps. Voilà. Donc l'allongement de l'espérance de vie est susceptible d'entraîner une augmentation de l'épargne, donc une baisse du taux d'intérêt. La baisse de la fécondité, une proportion plus faible de travailleurs par rapport aux retraités réduit l'épargne globale, mais diminue le revenu de manière proportionnellement plus importante, de sorte que le taux d'épargne augmente à nouveau. Tu vois ? Donc c'est ça qui est... le baby-boom entraîne une augmentation du taux d'épargne quand les baby-boomers travaillent et une diminution du taux d'épargne quand ils prennent leur retraite. Cet effet est cependant pertinent aujourd'hui, s'estompera à l'avenir. Le facteur dominant toutefois est celui de l'allongement d'espérance de vie, ce qui laisse supposer une pression continue à la baisse des taux d'intérêt. Donc ça, c'est vraiment la vision que nous avons là. Voilà. Alors, les taux d'intérêt n'ont cessé de baisser, sans être particulièrement la conséquence de la crise financière mondiale ou du Covid, d'accord ? Une inconnue majeure serait de la politique budgétaire. Évidemment, si tout d'un coup tu fais beaucoup de surchauffe, tu peux entraîner temporairement une augmentation des taux d'intérêt pour endiguer l'inflation qui en résulterait. Ça, c'est possible, mais c'est temporaire. Ça ne va pas affecter la tendance de long terme des taux d'intérêt. mais ça peut quand même compromettre beaucoup de choses, même si ça dure un certain temps, ça peut nous rendre insolvables, etc. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais dire un peu sur les taux d'intérêt, taux de croissance, évolution des taux d'intérêt. Alors, je vais maintenant passer aux deux derniers. Là, je vais passer, donc maintenant, je passe ça à... Alors, voilà, je passe à cette passe-là, pareil, et après, je terminerai. Et je passe à nouveau diaporama. Alors, la dette publique, qu'est-ce que c'est que la dette publique ? Donc, c'est la dette du gouvernement central, c'est une dette souveraine. La dette est un stock. Le déficit est un flux qui augmente la dette. Les excédents peuvent être utilisés, là, il manque un S, pour rembourser la dette et pour acheter des actifs financiers. D'accord ? La dette en fin de période, c'est la dette en, début de, en fin de période précédente plus les déficits financiers de la période T. D'accord ? Alors, il y a des bonnes raisons pour s'endetter. Payer une guerre, étaler le coût d'une catastrophe, absorber des chocs sur le revenu. Ben, ça, on l'a dit tout à l'heure, hein. La contracyclicalité. Financer des investissements, ben, voilà, on y vient, dont le rendement collectif est supérieur au taux d'intérêt réel, rendement de croissance notamment. L'endettement est une manière de répartir la charge d'un investissement entre les générations, d'assurer une stabilisation macro. C'est la contracyclicalité. Mais il y a aussi de mauvaises raisons. Le financement des dépenses courantes. Voilà, d'accord. Alors, contrairement à un ménage, l'État n'est pas mortel. La dette est transmise de génération en génération et s'érode par l'inflation et la croissance. Alors, il y a défaut souverain si un État n'honore pas du tout ou partie des engagements financiers prévus par le contrat qui le lie à ses créanciers. Deux conséquences d'un tel événement. Eh bien, les titres de dette de l'État ne sont plus acceptés comme collatéral par les banques centrales. Donc, tu as une notation qui baisse, hein, notation D, défaut. Et tu déclenches le paiement des assurances contre le risque de défaut sur décision de la ISDA. Alors là, maintenant, on va arriver à cette chose. Je vais vous l'expliquer. On va vous l'expliquer très, très simplement. Donc, ne vous affolez pas. D'accord ? Alors, je vais écrire en tableau des trucs pour mathématiques, mais regardez surtout ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire est très, très intuitif. Alors, ma dette aujourd'hui, d'accord ? Qu'est-ce que c'est que ma dette aujourd'hui ? Ma dette aujourd'hui, BT, c'est ma dette hier, mais j'ai des intérêts. Donc ça, c'est ma dette hier, j'avais ma dette d'hier, mais je dois rajouter les intérêts sur cette dette, d'accord ? Et puis, alors, je mets plus DT, c'est mon déficit, mais tu peux l'écrire, moins mon surplus primaire, parce que le déficit, c'est moins le surplus primaire, d'accord ? Déjà, si tu veux le mettre en moins le surplus, plus ou plus le déficit. Le déficit augmente ta dette, si je fais du surplus, ça la diminue, d'accord ? OK ? Ben, vous êtes formidable. Voilà. Bon. Et alors maintenant, ce qui compte, ce n'est pas tellement le BT. Ce qui compte, c'est qu'on regarde toujours la dette en fonction du PIB. Ce qu'on regarde, nous, c'est le ratio de BT sur YT. D'accord ? Et YT, c'est P fois... C'est l'output nominal, quoi. C'est votre PIB, mais votre PIB, il est en euros. Hein, d'accord, il est en... Et ça, vous pouvez dire que c'est comme un truc réel multiplié par le niveau des prix, d'accord ? Mais vous embêtez pas, c'est comme ça pour l'inflation. Parce que l'inflation, évidemment, augmente le nominal. Hein, d'accord, mais enfin bon. Alors, si vous regardez ça, si vous mettez ça, eh bien, c'est très simple. Parce que maintenant, ben, vous dites, ben voilà, je prends BT et je vais tout diviser par YT. Donc, ça vous fait BT sur YT égale BT moins 1 sur YT, mais YT... c'est YT moins 1, 1 plus le taux de croissance. Donc je vais écrire ici YT, mais YT, c'est YT moins 1 fois le 1 plus G. Et ça, c'est point fois 1 plus R moins BT moins 1. D'accord ? Et donc si, moins le SPT, moins SPT sur YT, que j'appelle petit SPT. C'est le ratio de votre surplus sur le PIB. D'accord ? Eh bien, ça veut dire que, en fait, si vous notez, vous voyez, donc je vais vous mettre mais ça en termes très concrets, donc vous n'allez pas vous embêter, parce que je vais mettre ça en termes très concrets, et c'est très intuitif, donc vous n'allez pas vous embêter avec les formules mathématiques, mais c'est vraiment minimal, mais c'est juste pour juste l'écrire comme ça. Donc si maintenant, vous dites, voilà, mon ratio de dette, c'est le petit BT, là, ce que j'ai, c'est que le BT, c'est le BT moins 1, 1 plus R sur 1 plus G, moins le petit SPT, qui est le surplus en fraction du PIB, ou petit SPT, c'est SPT sur YT, c'est le surplus en fraction du PIB. Et vous voyez le truc important et le truc suivant, c'est ce que vous avez là, d'accord ? Et ça veut dire quoi ? Le truc important, c'est que si le R est plus petit que le G, vous voyez que, en proportion du PIB, c'est la croissance qui fait le travail. Vous savez, quand on vous dit qu'est-ce qui va faire baisser la dette, c'est la croissance, c'est ça qu'on veut dire. C'est-à-dire que si le G est plus grand que le R, et on a vu tout à l'heure que c'est ce qui est en train de se passer, eh bien, ça veut dire que même si vous ne faites rien du tout, pourvu que vous ne dépensiez pas comme des fous, que vous ne fassiez pas de la dette petit d comme des fous, que vous ne fassiez pas réduire du SP trop négatif, d'accord ? Eh bien, vous faites baisser le ratio de dette sur PIB par le simple fait de la croissance. Vous comprenez ? Mais je vais revenir très... Je vais revenir, mais ça va être le canal et on va parler de ça. Voilà, je vais montrer comment ça fonctionne. Regardez, donc voyez là comment ça marche. Donc ça, vous avez la dette au temps 1. Vous avez le déficit budgétaire au temps égal 1. Ça vous fait la dette au temps 2. Mais évidemment, il y avait la dette, mais vous deviez payer la dette fois 1 plus R, moins, c'était la dette fois 1 plus R, plus le déficit, ou moins le surplus. Et là, vous arrivez à la dette 2. Alors, la dette 2, maintenant, il y a la dette 2 fois 1 plus R, plus déficit ou excédent au temps 2, ça vous fera la dette 3, etc., etc. Vous voyez ça, d'accord ? Bon, c'est super. Donc, maintenant, vous êtes très intéressé par le ratio de la dette sur le PIB, par le BT sur YT, par le petit BT. Vous voulez savoir l'évolution de ce truc-là, d'accord ? Alors, évidemment, une augmentation de la dette... une action du grand B, hein, T, va augmenter le ratio dette sur PIB, mais une augmentation du PIB diminue le ratio dette sur PIB, d'accord ? D'accord ? Or, donc il y a une course entre BT, entre ce que coûte une augmentation de BT et la croissance du PIB. Vous comprenez ? Donc c'est là, c'est vraiment... donc je vous montre par exemple, qu'est-ce qui se passe si le R est plus grand que le G ? Si le R est plus grand que le G, c'est le cas que je n'aime pas. Parce que là, même si je ne... si le R est plus grand que le G, eh bien, même si je ne fais pas de déficit, ma dette va augmenter. Vous êtes d'accord avec ça ? D'accord ? Parce que le service de la dette va me coûter plus que le taux de croissance augmente le PIB. Donc le ratio... dette sur PIB va augmenter. La dette va augmenter. Là, on regarde que la dette augmente et le PIB reste constant. Mais ça veut dire que le ratio dette sur PIB augmente. D'accord ? Et donc, on va arriver là. La dette devient plus grosse partie du PIB. Là, on a regardé un cas où le PIB ne bougeait pas et c'est la dette qui augmentait. D'accord ? Et dans un cas comme ça, vous voyez que la dette devient plus gros morceau par rapport au PIB. Donc là, ce n'est pas bon. Vous allez dans un mauvais sens, là. Vous devenez de moins en moins attrayant pour les marchés extérieurs. D'accord ? Mais maintenant, on va regarder un cas inverse. Vous avez le G plus grand que le R. Ça veut dire que le PIB augmente plus que la dette ne croît du fait des remboursements. D'accord ? Donc, ce qui va se passer, c'est que le PIB, la dette, elle est là, le PIB augmente. Et vous voyez, dans ce cas-là, vous pouvez même vous permettre de faire un déficit budgétaire et que quand même le ratio de la nouvelle dette avec le déficit sur le PIB est moins que celui-là. Donc, quand vous avez de la croissance, vous pouvez vous permettre de faire de la dette. Mais vous pouvez raisonner autrement si je peux faire de l'investissement pour générer de la croissance. Vous voyez comment ça marche ? D'accord ? Donc c'est une course, le R, le G, d'accord ? Alors là, on regarde les ratios de dette historiquement. Évidemment, c'est pas surprenant tout ça. Vous avez la crise des années 20 et vous avez la nouvelle crise, la crise récente, d'accord ? Pas étonnant, hein ? Et j'ai pas le Covid, la Covid, hein ? Mais la Covid aussi, à mon avis, ça doit baisser et monter. Alors, comment on peut faire baisser le ratio dette sur PIB ? Alors, il y a plusieurs façons de le faire baisser, de le contrôler. Une manière, c'est la croissance, c'est d'augmenter le G, quoi. Je vais revenir à ça tout à l'heure. Tout ce qui fait augmenter le G, c'est bon pour moi. Ça me permet de, vous voyez, je peux me permettre de dépenser plus tout en n'ayant pas besoin de, vous voyez ? Je peux me permettre même de faire des déficits courants et de quand même pas augmenter le ratio dette sur PIB. La deuxième manière, c'est l'inflation. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure, le Y, c'est un PZ. Donc, tu peux dire, bah, je fais de l'inflation. Et l'inflation, ça augmente mon PIB nominal à PIB réel constant. Et ça, c'est une manière aussi de... c'est une manière également de faire baisser ma dette publique. Alors évidemment, il y a des gens qui sont... Tu dévalorises la dette nominale existante. Évidemment, le problème, c'est que... les perdants, c'est les épargnants. Et puis, donc, tu fais des épargnants pas contents. Et par ailleurs, ils peuvent avoir... Si tu fais de l'inflation maintenant... Eh bien, tu risques d'augmenter les anticipations d'inflation demain et d'aller vers l'hyperinflation, et dont on sait que ça déstabilise beaucoup de choses, d'accord ? Donc, ce n'est pas une voie géniale, l'inflation. Alors, il y a une troisième manière, c'est de faire de l'austérité. Tu augmentes les prélèvements et ou tu baisses les dépenses. Alors, le problème, c'est que ça peut avoir un effet pervers sur la croissance. Des fois, tu es obligé, mais ça peut avoir un effet pervers sur la croissance. Tout dépend comment tu le fais, par ailleurs. Quelle autre politique de croissance tu as ? D'accord ? Tu as aussi l'autre moyen qui est la répression financière, c'est que tu maintiens des taux à long terme à un niveau artificiellement bas. Mais, donc ça, c'est une autre façon, d'accord ? Mais là, évidemment, les perdants, c'est les créanciers et les détenteurs de produits. Et puis, tu peux dire, je restructure la dette. Alors, tu peux restructurer la dette sans réduire sa valeur nette présente ou là, en la réduisant. Et là, tu peux appauvrir les créanciers ou ne pas appauvrir les créanciers. Voilà un petit peu les outils dont tu disposes. Mais évidemment, l'outil qui est sympa, qui ne fait pas de perdant, c'est la croissance. Et donc, c'est celui-là qu'on privilégie. D'accord ? Alors, je veux quand même aller assez rapidement à je voulais juste vous donner vous apprendre quelque chose que c'est qu'une prime de risque. Tout à l'heure, j'ai parlé du X. Qu'est-ce que c'est que la prime de risque ? Eh bien, voilà, je vais vous le montrer très simplement, ça c'est grâce à Pisani. Donc, supposez que l'État emprunte 100 et la probabilité qu'il ne rembourse rien est N. Eh bien, tu sais que ce que tu vas avoir de l'État, c'est 100 avec probabilité 1 moins N et 0 avec probabilité N. Eh bien, pour compenser ce risque, les investisseurs vont demander au-dessus du taux d'intérêt une prime de risque rho telle que 1 plus I fois 1 plus rho, qui est plus ou moins 1 plus i plus rho, eh bien, fois e de p devrait être égal à la même chose que s'ils avaient pour sûr le i 100 avec le i. Et ça, c'est la prime de risque. Et tu vois que la prime de risque, elle est directement liée à la probabilité d'insolvabilité. Plus tu penses que l'État est insolvable, plus tu demandes une prime de risque. Et l'écart entre le i et le rho, qui est l'écart entre le i et le i plus rho, quoi, entre le i et ça, si vous voulez, entre 1 plus i et 1 plus et ça, c'est ce qu'on appelle le spread, d'accord ? Et pour certains pays, vous voyez par exemple, crise de l'euro, et ben, évidemment, crise de l'euro, et tu vois pour certains pays, particulièrement l'Italie, l'Irlande, etc., évidemment, et bien, avec la crise de l'euro, tu vois, tu as eu des alarmes et tout d'un coup, le spread se met à augmenter parce qu'on pense que le pays devient insolvable, ou a des grandes chances d'être insolvable. Et du coup, les investisseurs demandent un taux beaucoup plus élevé pour compenser par le fait qu'il y a une grosse probabilité de default. Donc, vous savez ce que c'est qu'un spread maintenant ? D'accord ? Quand vous verrez le mot spread, vous savez ce que c'est. Alors, je ne veux pas que vous gardez trop longtemps. Et donc, je vais directement passer... Oh là là, j'ai besoin d'aide. J'ai fait la bêtise que je ne devais pas faire. Attendez. Je crois que là... Attendez. Non. C'est super. Je passe à la dernière partie du cours. Voilà. Écoutez, c'est formidable. Je passe à la dernière partie du cours. Je reviens à Draghi. L'approche Draghi de la dépense publique. D'accord ? Et j'ai fait ça donc avec Ayman Mamedi, qui est... Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui. Et voilà, à nouveau, le même. Je crois que c'est la même photo. Hein. J'ai peut-être pas changé. C'est le même Draghi, mais pour deux choses différentes. Je vous avais mentionné dans mon premier cours, je crois, qu'on peut tout à fait réconcilier plus d'innovation et plus d'inclusivité par l'éducation. Mais on peut réconcilier plus d'innovation et plus de croissance verte en investissant dans l'innovation verte. Donc, en tout cas, il faut investir. Voilà, donc on veut innover. Ben, si on veut être comme les Américains, innover autant qu'eux dans les biotech, il faut investir. Si on veut, et il faut aussi éduquer. Vous voyez, la Barda, je vous avais raconté tout ce que la Barda, 12 milliards d'euros, nous, Rikiki, en Europe, hein, d'accord, pour ça, je vous avais dit. L'éducation, même chez nous, c'est trop dépendant des parents, et surtout en France, les tests PISA dégringolent, et la corrélation entre la performance PISA et le milieu social ne cesse d'augmenter en France. C'est évident que que la grande réforme, à mon avis, du quinquennat prochain, ça doit être l'éducation. Je pense que ça doit être un des grands chantiers, quoi. Ça fait tout, ça fait l'intégration, parce qu'en fait, on a un énorme problème d'intégration en France. La France, c'est pas juste les gens sont braqués sur l'immigration, mais on ne s'est pas intégré, et on ne s'est pas intégré parce qu'on ne s'est pas éduqué. C'est ça le gros problème. Hein. Voilà, donc si vous voulez, je reviens à ça maintenant, et ça va être la conclusion du cours, comment je peux réconcilier la gestion de la dette publique, parce que je ne veux pas que mon petit B explose, d'accord, et le but ambitieux que nous nous sommes assignés d'arriver vers un capitalisme plus innovant, plus inclusif, plus vert, tout ça, ça coûte de l'argent. Et de stopper cette désindustrialisation dramatique que dénonce Jérôme Fourquet dans son livre. Voilà. Donc il y a une vision qui est la vision austérité, qui est de dire, et on revient au débat que j'avais au début quand j'avais regardé les politiques contracycliques, c'est qu'il y a la vieille manière, les vieilles recettes, de dire, ben voilà, on coupe à fond dans les bénéfices sociaux et dans les investissements publics, on réduit les impôts, on continue. Ben, moi, je suis pour certaines réductions d'impôts encore sur les impôts de production. Je pense qu'ils sont trop élevés. Mais l'idée, c'est de réduire encore beaucoup plus les impôts, de couper dans toutes les dépenses publiques et de penser que ça fait redémarrer la machine parce qu'on rétablit la profitabilité des entreprises. Ça, c'est une vision, d'accord ? Mais je ne pense pas que ça va vous donner plus d'éducation. Je ne pense pas que ça va vous donner la réindustrialisation. Je ne pense pas que ça va vous donner la flexi-sécurité, etc. L'autre vision, qui est celle de Draghi, c'est que lui sait que, évidemment, la solvabilité, que si j'ai G plus grand que R, eh bien, si G est plus grand que R, eh bien, je sais que, même si j'ai pas de E, ça me permet au B de baisser, même en faisant des dépenses publiques. Donc, ça, c'est la première chose. Je sais qu'il faut maintenir G plus grand que R. J'ai cette chance que les taux d'intérêt à long terme baissent. Je dois consolider le G plus grand que R et faire augmenter le G. D'accord ? Et l'idée là-dedans, c'est de dire, ben, je rajoute à ça la croissance endogène que moi j'ai poussée, c'est-à-dire le G. Dans toutes les études existantes de la dette publique, le G est pris comme donné. Mais le G, il est endogène. Le G, il dépend de ce que nous allons faire. D'accord ? Et donc, les investissements en éducation, en recherche, en DARPA, etc., vont affecter le G. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de dire, voilà, eh bien, dans le SP, vous voyez, tout le problème, c'est pas juste le SP, c'est que ce qui manque là-dedans, c'est que dans le... Alors, je vais mettre, en fait, plus DT, d'accord ? Je vais le mettre sous la forme plus... ça, c'est là. C'est le déficit en période T. Déficit à la date T. Alors, à la date T. Mais le déficit DT, tu peux le décomposer en dépenses de transfert et en dépenses de croissance. Ça, c'est des transferts. Et ça, c'est des dépenses de croissance. Donc maintenant, ce qu'on fait avec notre ami Ayman, c'est qu'on reprend cette équation-là, mais on décompose le D en une dépense de croissance et une dépense qui n'est pas une dépense de croissance. Et ça change tout de faire ça. Parce que du coup, je peux me permettre, non seulement je peux me permettre de faire du déficit, mais je veux faire une déficit, mais surtout centré sur du G, qui va augmenter le petit G, et qui du coup va me donner encore plus d'oxygène pour encore pouvoir augmenter ses dépenses. Et vous voyez, et c'est une nouvelle logique qui arrive là. Parce que à chaque fois que je fais une dépense de croissance, j'augmente le G, qui me donne encore plus d'espace pour faire encore plus de dépenses, dont je vais prendre beaucoup de G pour faire réaugmenter le G, le petit G, etc., etc. Vous voyez comment je fonctionne ? Voilà. Ça, c'est la nouvelle logique. C'est comme ça qu'il faut raisonner, voilà. Et donc, c'est ça qu'on fait. Alors, évidemment, ce qu'il faut pour ça, et donc j'avais fait un papier dans Le Monde il y a un mois, et j'ai expliqué là-dedans que ça, c'est très bien, mais je ne suis pas du tout pour mettre Maastricht par-dessus bord, parce que je pense qu'il faut donner le choix au pays où on reste avec Maastricht tel que c'est, et Maastricht, on regarde juste le D, et il ne faut pas que DT soit plus que 3% du PIB, sans regarder la composition du D, où on dit à un pays, vous voulez sortir de là, d'accord, vous voulez faire des investissements de croissance, mais là, et à ce moment-là, vous allez rentrer sur nos fourches codines européennes ou d'autres. C'est-à-dire de dire, oui, mais attention, on veut être sûr d'abord que vous réduisez quand même un peu ces autres dépenses, parce qu'on peut faire des choses, certaines dépenses, pas toutes, mais pas autant que les partisans de l'austérité voudraient, mais quand même, il y a des choses qu'on peut faire, d'accord. Et l'autre chose, c'est que c'est pas sûr, vos investissements de croissance, peut-être qu'ils valent rien du tout. Et donc, la gouvernance et la performance. Donc, si vous voulez, la première chose, c'est de dire, eh bien, il faut réduire d'autres types de dépenses. Par exemple, moi, je pense qu'en France, on ne pourra pas échapper à un allongement de la durée de cotisation des retraites, en tenant compte de l'âge où on commence à travailler, en tenant compte de la pénibilité, évidemment. Mais il va falloir, mais pas un allongement jusqu'à très très long, mais peut-être un an ou deux ans. Je pense qu'on n'y coupera pas. D'ailleurs, le Touraine, il y avait la réforme Touraine qui prévoyait une accélération de l'augmentation de la durée de cotisation avec l'espérance de vie. Il faut simplement accélérer Touraine de manière intelligente. Je pense que ça, déjà, on peut faire beaucoup. Il y a peut-être d'autres réformes qu'on peut faire. Voilà, les Italiens font aussi des réformes en même temps. Et il faut regarder la gouvernance des G, s'assurer que les G sont vraiment bien faits, quoi. Alors, je vais revenir là-dessus, d'accord ? Je vais revenir là-dessus. Donc, Draghi, qu'est-ce qu'il fait ? Alors là, on est au Draghi Premier ministre. C'est plus Draghi président de la Banque centrale. C'est Draghi Premier ministre. Qu'est-ce qu'il fait, Draghi ? Eh bien, Draghi, il dit, moi, j'ai des fonds européens de relance. Qu'est-ce que je vais en faire ? L'Italie est déjà endettée. Je vais utiliser ces fonds pour m'endetter encore plus. Et je vais, grâce à cet argent que j'ai, donc les fonds plus l'emprunt, grâce à ces fonds, je vais financer un investissement de 10% du PIB sur 5 ans et je vais les mettre dans l'éducation, la recherche, la santé, l'énergie et le numérique. Mais en même temps, je vais approfondir la réforme de l'État. Les Italiens avaient déjà fait une réforme de l'État beaucoup plus que nous, hein. Il y avait eu notamment... c'était sous Prodi, quand Prodi était Premier ministre, il y avait eu Bassanini, quand Franco Bassanini était ministre de la fonction publique, c'était les réformes Bassanini sous Prodi, quand Prodi était président du Conseil. Ils avaient fait déjà beaucoup de réformes de l'État, beaucoup plus que nous. Hein. Voilà. Mais lui, il va continuer le plan Draghi. Et donc, il a été négocié avec les Européens. Il a négocié son plan avec eux. Il a dit, voilà comment je vais faire mes investissements et je vais en même temps approfondir. Et il a eu le tampon européen sur son plan. Voilà. Ça, c'est la bonne manière de faire. Et donc, on va regarder maintenant un petit peu, on s'est amusé à regarder des plans d'investissement en disant, voilà, regardons 0,5 de PIB d'investissement dans l'éducation tous les ans. Et je reviens, en utilisant, je vous rappelais, je vous avais parlé de ce papier d'Axigit, vous savez, sur le Danemark, vous vous souvenez ? Et il avait des estimations en regardant l'hétérogénéité des faits, le fait qu'il y avait des gens qui aimaient la recherche, d'autres qui ne l'aimaient pas, des gens qui avaient des contraintes des crédits, des gens qui ne l'aimaient pas, des gens qui avaient des niveaux d'éducation ou des niveaux voilà, différents. Et il avait pris tout ça en compte pour estimer des effets de croissance de certaines politiques. Et là, on va regarder les effets d'un investissement dans l'éducation tous les 5 ans. Et en supposant les mêmes effets qu'au Danemark. En fait, il y a des raisons de penser que l'effet serait plus important chez nous, parce que notre point de départ est beaucoup plus mauvais que celui du Danemark. Mais voilà les effets, disons, si on fait éducation ou R&D, de combien on augmente la croissance chaque année. Donc c'est une augmentation de 20% du taux de croissance initial. Hein. Donc on a un taux de croissance initial de 1,5, donc on fait passer de 1,5 à 1,5 plus 20% de 1,5. Hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. Au bout de 20 ans, voilà. Donc, on fait ce truc-là. Donc, ça veut dire que ce qu'on fait, c'est que je vais dépenser ça, et ça va être mon grand G. Ça, c'est ma dépense d'éducation. D'accord ? Ce que je vais faire, donc, je vais regarder ça, et je vais les réduire. Je vais les financer par une réduction des dépenses grâce aux retraites. Chaque année de retraite en plus, c'est 6 milliards d'euros, à peu près. Je vais faire 2 ans. Là, je ne vais même pas, entre 1 et 2 ans. Je fais 10 milliards, financés par l'allongement des retraites. Et je les mets dans l'éducation. D'accord. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, voyez, regardez, je fais baisser la dette publique, comme ça, quoi. Vous voyez, donc j'investis dans l'éducation et je fais baisser la dette parce que j'ai changé la composition de ma dépense. Donc, j'ai toujours une dépense. Simplement, je garde un DT, mais mon DT, c'est que simplement, je réduis le T et j'augmente le G. Et ça, ça fait baisser la dette publique parce que j'ai, à cause de ça, fait augmenter le petit G. Vous comprenez ? Voilà. Et ça, c'est ça la nouvelle manière de penser. D'accord ? Sinon, on peut regarder un autre truc, c'est un investissement d'un montant de 10% du PIB combiné aux mêmes réductions de dépenses publiques. Et là, regardez, alors là, c'est super, parce que, évidemment, comme j'augmente beaucoup plus le G, et bien là, si je mets tout dans l'éducation, je fais baisser la dette. Au début, la dette publique augmente, et après, la dette publique diminue, parce que j'ai fait tellement augmenter le petit G que le petit G va me faire quand même diminuer ma dette. C'est juste illustratif, quoi. C'est-à-dire que tu as un effet tel sur la croissance que malgré que c'est un truc plus gros, en fait, tu fais baisser ta dette. L'effet petit g l'augmente, l'emporte là. Parce que le petit g est une fonction du grand G. D'accord ? En Italie, eh ben, on fait exactement le plan Draghi. On a regardé s'ils mettaient tout dans l'éducation avec les élasticités de Axigit. D'accord ? Eh bien, tu vois qu'en fait, il arrive à faire plus de croissance verte. Eh ben, sa dette, il n'a pas d'effet. Il n'a pas, si tu veux, s'il fait sur le plan éducation, il a pas plus de dette, en fait, il stabilise sa dette, enfin, il est, en tout cas, il ne l'augmente pas. Et s'il faisait un investissement plus important sur le G, peut-être qu'il peut stabiliser sa dette. En tout cas, on ne peut pas lui reprocher d'avoir un effet à long terme qui déstabilise sa dette. Bon, ça, c'est déjà une chose, quoi. Et alors là, le cas suédois, alors le cas suédois est très intéressant parce que eux, ils démarrent d'un ratio de dette sur PIB de 40%, le petit BP, le BT, c'est 40%, et eux, bah, s'ils adoptaient 10% du PIB suédois, tu vois, financé entièrement par de nouveaux prêts, ils n'ont même pas à réduire, eux, ils ont pas, on leur demande même pas de réforme des retraites, on leur demande même pas de réforme de l'État, ni rien du tout, parce qu'ils ont tout fait déjà, et simplement ils augmentent ces dépenses, eh bien au début leur dette va augmenter, mais très vite elle va se stabiliser et elle va baisser. Tu vois, et eux, ils n'ont même pas besoin d'un 10 milliards de retraite, tu vois, d'augmentation de la charge, parce qu'ils partent d'un niveau plus bas aussi de dette, hein, et ils ont fait ces réformes déjà. Donc eux, ils n'ont pas besoin. Eux, ils peuvent se permettre d'investir davantage. Donc c'est intéressant, c'est une manière de voir. Donc conclusion, c'est un nouveau paradigme. Il faut regarder la composition de la dépense publique, pas juste le montant total de cette dépense. Il faut distinguer les investissements qui augmentent le petit G des dépenses qui n'augmentent pas le petit G. Et les nouveaux investissements doivent aller de pair avec une baisse de certaines dépenses publiques. Je pense, moi, par exemple, en France, à l'allongement de la durée de cotisation pour les retraites d'un ou deux ans, plutôt deux que un, et une durée minimale vraiment de 35 heures dans tout emploi public, que 35 heures soit vraiment 35 heures, pas 20 heures, quoi, tu vois, voilà, d'accord. Mais c'est beaucoup moins que ce que proposent les gens qui proposent l'austérité, c'est pas de l'austérité. Et je soumets les nouveaux investissements à un double contrôle, gouvernance. Alors je viens à la gouvernance. La gouvernance, c'est quoi? Eh bien l'éducation, par exemple, on regarde les tests, et on regarde surtout enfin, la gouvernance, c'est-à-dire est-ce qu'il faut autonomie ou pas jusqu'à un certain point des chefs d'établissement, est-ce qu'il faut tutorat, contrat avec les enseignants. Les enseignants ne sont pas assez payés en France, mais peut-être on peut définir un nouveau contrat avec les enseignants, où ils gagneraient beaucoup plus, mais en même temps, peut-être qu'il y a de l'encadrement d'élèves, peut-être qu'il y a des choses, et donc de repenser la mission pédagogique. Donc ça, c'est à revoir, évidemment. D'accord, je ne sais pas comment le faire, mais la politique industrielle, on sait qu'il faut la darpaïser. Moi, ma grande inquiétude, je vous l'ai dit plein de fois avec 2030, c'est qu'on continue à graisser la patte des grosses entreprises françaises. Elles sont très sympathiques, mais on leur donne l'argent et on leur dit « vous traitez directement avec vos filières ». Il n'y a aucune darpaïsation pour le moment des investissements publics. Moi, j'aurais voulu qu'avec 2030, il y ait une nouvelle gouvernance des investissements, comme la DARPA ou comme la BARDA, dont je vous avais parlé, c'est un mélange de top-down et de bottom-up pour préserver la concurrence. Pour le moment, c'est on donne à quelques gros et on les laisse se débrouiller. Et ça, ça a beaucoup de chances de ne pas marcher beaucoup, très bien. Donc ça, c'est... Voilà. Et voilà, et que dans différents types d'investissements, on regarde la gouvernance de ces investissements. Voilà, ça, c'est la première chose. Comment, quand on a fait l'université, quand il y avait eu le plan des IDEX, le plan en 2010-2011, il y avait eu la gouvernance des universités qui devait s'améliorer. Voilà, et donc on avait discuté de la gouvernance. Moi, j'étais dans le jury IDEX, et donc il y avait différents candidats, universités candidates, enfin, campus candidats, et ils devaient montrer qu'ils amélioraient leur gouvernance, sinon ils n'obtenaient pas l'argent. Donc il fallait que ce soit un transformateur, il faut qu'un investissement, il faut que le G soit transformateur. J'améliore le système d'éducation, il est beaucoup trop centralisé, il n'y a pas assez d'autonomie des chefs d'établissement, je darpaïse la politique industrielle, vous voyez, je dois gérer ça autrement. Et puis la deuxième chose, c'est la performance. On sait que, par exemple, il y a les tests PISA, tous les tests sur l'école. Il y a innovation, ben, on a les brevets, la qualité des brevets, l'entrée de nouvelles entreprises innovantes, la croissance de la productivité. Tout ça, c'est des indices qui nous renseignent sur l'efficacité de l'investissement. Et donc, il faut que les pays acceptent de se soumettre à des critères de gouvernance et de performance. Et je pense que c'est sous cette condition-là qu'on peut dire, alors d'accord, vous prenez pas Maastricht complètement, on fait un Maastricht amélioré pour vous, avec ça, avec toutes ces conditions-là. Si vous voulez pas, vous restez à Maastricht maintenant. Voilà, donc vous avez le statu quo, pour ça qu'il faut absolument garder le Maastricht maintenant, parce que vous ne voulez pas, comme on disait aux universités, vous voulez pas vous réformer, vous gardez, vous restez pauvre comme vous êtes maintenant. Vous voulez vous réformer, vous aurez de l'argent. Voilà. Donc, et donc si vous voulez, je pense que là, c'est un nouveau paradigme, mais c'est un paradigme beaucoup plus exigeant, parce que ça veut dire que les pays se soumettent quand même au contrôle, ils doivent faire ce qu'a fait Draghi, c'est-à-dire aller discuter avec les autorités européennes pour montrer qu'ils ont un plan viable et que ça fonctionne. Voilà. Et ça, je crois que c'est une nouvelle manière de voir les choses. Voilà un petit peu comment je... Voilà, je crois que je conclue le cours à ce stade. Merci beaucoup.